Donc voilà, bonsoir à tous. L'enregistrement a démarré. Bienvenue sur cette nouvelle émission Radio Pléiade, notre 29e émission déjà, que le temps passe. Nous sommes le lundi 10 janvier 2022 et nous sommes encore sous l'oppression de la cabale à la surface de la planète, mais la situation devrait changer rapidement maintenant. On va en parler justement, on va en parler un petit peu de tout ça. Alors, c'est un moment, donc Radio Pléiade, en fait, c'est un moment pour se retrouver entre Jedi, entre travailleurs de lumière, guerriers de lumière, fourmis de lumière, enfin, dénommez-vous comme vous le souhaitez. Donc, tous les lundis à 21h, donc merci aux habitués, merci d'être fidèles à l'émission, et puis bienvenue aux nouveaux, s'il y a des nouveaux parmi nous. N'hésitez pas à utiliser donc le groupe de discussion Révolution Vibratoire sur Telegram pour poser des questions, pour réagir. Alors nous, on va vous poster dans le fil de cette émission, on va poster des liens qui sont utiles à la compréhension de l'émission ou pour approfondir. On les poste dans le canal donc où nous sommes actuellement, donc Victoria Luminis, mais ces publications sont répercutées automatiquement dans le chat Révolution Vibratoire. Donc vous pouvez les commenter. Il n'y a pas de souci et on peut interagir même si on a migré et qu'on est maintenant sur Victoria Luminis. Donc, alors une petite annonce très rapidement. Si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous invite à aller découvrir notre live donc de samedi où on a fait une mise à jour de situation planétaire commentée donc du contact Ecobra. Donc il y a déjà 2000 peut-être 2400 vues, c'est super. En tout cas, si vous l'avez pas vue, on vous invite à aller la voir. Elle est peut-être un peu longue, mais je pense que niveau contenu, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à y retourner. Et puis alors ce soir, nous avons la chance, l'honneur, l'avantage d'accueillir Nadine Touzeau. Bonsoir Nadine.
Bonsoir et bonsoir à tous. L'honneur est pour moi aussi. Je suis toujours contente de revenir auprès de vous et de tous les auditeurs. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Petit aparté, vous êtes tous des Jedi et on m'avait donné un surnom autrefois. Des gens de la Défense m'ont donné un surnom qui était Maître Yoda. Et les étudiants que je forme pour mon métier s'appellent les Padawan. Donc je pense qu'on est bien en famille ce soir.
Voilà, exactement, exactement. On se comprend. Entre Jedi, on se comprend. Et d'ailleurs, donc, on a déjà fait une émission ensemble sur Radio Pléiade, cette émission 16, où on a beaucoup parlé de profilage finalement, de ton activité principale. Donc si vous êtes intéressé justement, parce que ça, on va bien sûr parler un petit peu de ça, mais ce n'est pas le thème de la soirée. Le thème de la soirée, c'est la soumission à l'autorité. Vous allez voir que c'est un thème qui est vraiment d'actualité parce que s'il n'y avait pas de tant de soumission à l'autorité, tant de soumission aveugle, nous n'en serions pas là toujours à vivre ce que nous vivons avec cette pandémie. Mais on va aussi parler, je dirais, comment ne pas continuer à alimenter cette matrice. Et puis, vous aurez le loisir de poser les questions que vous souhaitez à Nadine. Donc voilà, en tout cas, voilà, si vous souhaitez, on a déjà fait deux émissions avec Nadine, donc un Radio Pléiade numéro 16 que vous pouvez retrouver sur le site Lève le Voile, ainsi qu'un live. J'ai mis les liens, je t'ai donné les liens, Cindy, si tu peux les poster, les liens de nos émissions précédentes pour ceux qui sont éventuellement intéressés. Voilà. Et alors, si vous le souhaitez, vous avez tous les replays aussi. Donc, de Radio Pléiade sur le canal Victoria Luminis sur lequel nous sommes. Il suffit d'aller sur le canal Victoria Luminis et de taper dans la recherche, vous tapez replay, R-E-P-L-A-Y. Et à ce moment-là, vous aurez tous les replays et vous pouvez télécharger même les podcasts de chacune des émissions si vous avez le courage et l'envie, surtout, d'écouter donc les émissions précédentes. Donc, voilà. Voilà pour les annonces. Donc, bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle émission. Et on va commencer, donc une fois n'est pas coutume, cette émission par un petit quiz musical. Vous allez nous dire, on va vous laisser vous exprimer justement sur le chat groupe Révolution Vibratoire pour nous dire est-ce que vous avez deviné ou pas de quoi il est question. Bien évidemment, notre quiz musical est en lien avec notre émission de ce soir. Allez, c'est parti. Que le meilleur gagne. Alors, je ne sais pas ce que vous allez gagner, mais alors déjà notre reconnaissance. Et puis peut-être, on va voir si le Padawan vient de Jedi. Bref, je vous mets cette petite musique et on se retrouve tout de suite, d'ici quelques secondes. entendez-vous bien la musique ? Alors, je ne vois pas de personnes qui répondent au quiz. Je me demande si vous entendez la musique. Oui, bravo pour Oiseau Bleu, Ennio Morricone. Et alors maintenant, plus précisément. Allez, on va s'arrêter là. Merci d'avoir participé à ce petit quiz musical. Et donc, bravo à Oiseau Bleu. C'est bien, tu as bien reconnu Ennio Morricone. bravo à toi. Et en fait, c'est une musique de film. C'est une musique de film. Et le film, c'est... Non, ce n'est pas Le Marginal et ce n'est pas 007. C'est I comme Icar, un vieux film de Henri Verneuil. I comme Icar, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film-là, si vous l'avez vu, un film avec Yves Montand. Mais alors, vous me dites, mais alors, c'est quoi le rapport avec le thème de ce soir ? En fait, dans ce film-là, dans ce film I comme Icar, il y a une séquence un peu longue. Je me souviens l'avoir vue étant très jeune. Je l'ai trouvé un petit peu longue, mais une séquence capitale qui parle de l'expérience de Milgram. Même si je crois, je ne suis pas sûr que le terme soit prononcé justement dans le cadre de ce film, donc I comme Icar. Mais voilà, et on va parler, ça va être une partie en tout cas du thème de ce soir, l'expérience de Milgram, la soumission à l'autorité. Alors dis-moi Nadine, est-ce que tu as vu ce film ?
Oui, bien sûr. D'abord, Henri Verneuil, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Il faisait un très bon travail, il a fait beaucoup de très bons films. Yves Montand, qui est dans ce film, quand même, était un très bon acteur. Et j'ai vu ce film, en effet, parce qu'il est pertinent. Tu m'as remémoré l'autre fois un extrait, et l'extrait est bien choisi. Je ne crois pas qu'il cite Milgram dedans, mais en tout cas, c'est extrêmement clair. Et il y a des synergies communes avec l'expérience de Milgram en soi.
Ouais, tout à fait. Alors moi, c'est un film qui m'a un petit peu traumatisé, et je pense que vous pouvez comprendre pourquoi d'ailleurs, et c'est possible que ça en ait traumatisé chez les Jedi d'une façon générale, pour des raisons qu'on pourra expliciter un petit peu plus tard. Mais allons-y. Parlons d'abord peut-être de l'expérience de Milgram. Alors, est-ce que tu peux justement, Nadine, nous dire un petit peu ce que tu en sais de cette... Et puis je vous montrerai un petit extrait, même deux petits extraits tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un petit peu ce qu'est cette expérience de Milgram ?
Alors, il y a plusieurs explications, notamment sur Internet. Il suffit de voir Milgram, hein, qui était un chercheur qui avait mis en place cette expérience-là. Donc, sans rentrer dans le détail de cette personne-là, concrètement, c'est d'essayer de pousser des personnes dans une situation encadrée et chartée dans des retranchements comportementaux. Moi, je le dis avec mes mots, hein, dans des retranchements comportementaux pour voir jusqu'où ils peuvent aller vis-à-vis d'une autre personne sans peut-être suffisamment avoir de discernement, globalement, vu les résultats qu'il y a obtenu, de l'impact de leur propre comportement sur cette autre personne. Donc, en gros, il y a une personne qui se positionne en juge, en décideur, qui reçoit les informations pour exécuter, en exécutant, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et en face, on a une autre personne qui est en gros positionnée en victime ou pas, selon ce qu'elle va répondre. Et c'est l'exécutant décideur juge qui va appliquer des ordres, des injonctions, tout un ensemble de choses pour le convaincre qu'il fait une bonne action vis-à-vis de cette victime. Et c'est là où ça devient extrêmement percutant, c'est de voir l'action de ces personnes-là vis-à-vis de cette dite victime qui n'en est pas une en soi, mais qui le devient. Donc on n'est pas loin d'un système manipulatoire que l'on vit aujourd'hui et que l'on vit même depuis pas mal de temps, puisque ça a évolué aussi avec le temps. Je crois qu'on en avait parlé dans une émission, je ne sais plus. Et en tout cas, j'en ai parlé dans pas mal de mes émissions, d'autres émissions. Et cette expérience dite de Milgram, donc de l'inventeur, est de voir jusqu'où les exécutants qui deviennent des persécuteurs vont aller face à cette dite victime qui devient victime pour le coup. Parce qu'au début, ils ne s'imaginent pas ni l'un ni l'autre que les choses vont aller à ce moment-là. Et là, ça passe par des tas de phases psychologiques, comportementales, physiques, mais qui mettent à rude épreuve autant celui qui devient persécutant et qui crée sa victime. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais c'est comme ça que je le vois.
Oui, mais on va revenir là-dessus. Merci beaucoup. Et moi, je me rends compte que je fais n'importe quoi ce soir, puisque je ne t'ai même pas demandé de te présenter, parce qu'il y a sans doute des personnes qui ne te connaissent pas ici ce soir. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots rapides, justement, nous dire qui tu es ?
Oui, c'est vrai, on n'y a pas pensé. C'est pas bon, à force, tu sais, on oublie. Parce que nous, on se connaît, c'est vrai, mais il y en a qui ne nous connaissent pas, qui me connaissent peut-être pas, en effet. Je suis de métier de profiler. Donc, dans les sciences du comportement, pour information, il y a 130 ans de retard dans les sciences du comportement en France. Je suis connue mondialement. Net profiler, donc j'ai poussé ça dans le virtuel. J'ai fait aussi du profilage historique sur des masques mortuaires, des tableaux de maître. Donc, ce qui fait que j'ai la casquette de profiler dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc, c'est complet, en fait, le panel est complet. Et je suis aussi chercheur en comportement des cybercriminels, où j'ai développé plusieurs théories scientifiques, divulguées 5 sur une famille qui s'appelle les différenciations comportementales entre le réel et le virtuel. De renommée mondiale également. J'ai publié de très nombreux articles scientifiques aux États-Unis, principalement. Et sans être docteur, je précise, je ne suis pas docteur. La France doit donner le titre de docteur honoris causa, mais je peux m'asseoir dessus, vu les circonstances. Par contre, dans le milieu scientifique, tout le monde m'appelle docteur. Je n'utilise jamais ce titre puisque je ne l'ai pas eu officiellement. Voilà, donc globalement, je travaille en coaching. Je fais du coaching pour les particuliers et les entreprises, formation, consulting et conférences scientifiques ou pas, en fonction de la demande, en fonction de la demande ou des invitations qu'on m'envoie parfois, où j'estime que les gens et les personnes qui veulent me recevoir, ça me correspond complètement. Et donc, j'accepte avec plaisir de faire une conférence. J'en ai deux de prévues cette année à ce sujet en France.
Bah super, merci beaucoup. Pour ceux qui sont intéressés, donc Cindy a posté sur Victoria Luminis donc ton site nadinetouzeau.com. Et alors moi, je pense que si tu j'ai envie de dire, si tu avais existé du temps où le film I comme Icare a été fait, je pense que tu aurais eu tout à fait ta place dans ce film, et sans doute que Yves Montand, peut-être que l'histoire se serait mieux terminée s'il avait pu faire appel à tes services.
Ah bah oui, c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas très bien compris, et c'est bien de lancer un peu la balle, parce que j'ai encore eu quelques questionnements là-dessus. En fait, alors déjà, je profile sur image, ce qui est quelque chose de pour le moment, dans les services défense, ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui fasse la même chose. En tout cas, pas comme je le fais. Je me fais juste quelques secondes pour savoir exactement à qui j'ai affaire. Et quand je dis exactement, c'est vraiment tout le panel. On m'envoie parfois des photos pour faire des profilages dans le monde réel pour des raisons de négociation, de fusion-acquisition, parfois des couples aussi. Et donc, il me faut quelques secondes ou quelques minutes à peine pour travailler les faits. Par contre, quand on demande un rapport écrit, bon, bah, c'est à peu près le maximum que j'ai fait, c'est 9 pages pour une personne. C'est entre 7 et 9 pages en moyenne. Donc là, il me faut du temps, par contre. C'est le rédiger qui est plus long.
Donc tu regardes une personne 4-5 secondes et tu peux écrire 9 pages derrière.
Oui, alors là, bon, là, les 4-5 secondes, je vais les développer quand même, hein, pour écrire les 9 pages, mais c'est parce que ça va être plus long pour écrire. Donc après, je vais creuser, je vais voir si j'ai bien tout fait, etc. Comme juste au téléphone, si tu veux, quand on fait des profilages, quand je vois les personnes juste au téléphone, je fais la même chose, mais ça va plus vite puisque tu parles. Et puis en plus, c'est interactif, tu réponds aux questions. Mais parfois, pour des dossiers juridiques ou pour des dossiers qui sont un peu plus tendus, plus sensibles, plus exactement, là, on me demande de rédiger un rapport. Et donc, forcément, c'est plus de temps. Mais j'ai tout dans la tête, en fait. Dès que je vois la photo, j'ai tout dans la tête. Mais après, je recontrôle, je revérifie. C'est le plus long, c'est d'écrire, en fait. C'est parce qu'il faut écrire, tu l'as, tu, puis bon, c'est pas présenté comme en, à l'oral. Tu vois, c'est bien encadré, un peu comme dans mon livre Profilage historique, Napoléon Bonaparte. C'est un peu dans cet esprit-là, même si dans ce livre-là, j'ai pas tout dit non plus. Comme dans tout, je ne dis pas tout, je ne dis tout qu'à mes clients. Donc voilà.
Parce
Donc,
que j'ai l'habitude de dire.
Oui,
ouais.
Pardon Hervé.
Non, c'est que, en fait, voilà, tu as des super pouvoirs. Je pense, on les envie d'ailleurs, ces super pouvoirs, parce que c'est quand même génial hein, quand on est face à n'importe qui. Ouais, nous-mêmes, on pourrait être en recherche d'emploi face à un potentiel futur patron ou face à un potentiel futur, même peut-être partenaire amoureux, j'en sais rien. Pouvoir le profiler en quelques secondes, c'est quand même pratique.
C'est exactement ça, et c'est pour l'entreprise, ça fait gagner énormément de temps. Il y a des contrats juridiques aussi en France, dans des métiers où on demande de faire des rapports pour savoir si on a en face de soi une personne frauduleuse ou ainsi de suite. Donc ça va faire l'objet aussi d'une émission. Et parce que s'il y a des choses qui sont assez choquantes, tout le monde ne peut pas profiler, on ne peut pas se permettre non plus de juger. Profiler n'est pas juger quelqu'un, surtout pas. Et donc, on fait appel à mes services parce qu'on est sûr d'obtenir un résultat un peu plus fiable, parce que ce n'est pas le métier des personnes à qui on demande, c'est les partenaires, c'est ainsi de suite. Mais en coaching, j'utilise aussi le profilage, ce qui fait qu'on a des résultats plus rapides et on va plus en profondeur par exemple que la psy. C'est plein de choses qui servent. J'utilise mon métier en transversal sur les domaines que j'ai cités et je ne veux plus travailler sur les affaires criminelles. Je travaille que pour le monde particulier de l'entreprise parce qu'il y a 10 fois plus de traumatismes et de difficultés et de tas de choses à révéler et surtout en ce moment avec ce qui se passe pour que les gens se sentent beaucoup mieux. Et sur ma chaîne YouTube, on a une cliente qui m'a lancé une idée. On fait maintenant des témoignages de clients pour ceux qui le veulent, des clients qui ont décidé d'apporter contribution de ce qu'ils ont vécu pour montrer aux autres qu'on peut s'en sortir. Et je les en remercie d'ailleurs. Ils ont la parole. Voilà.
Alors, bon, ce soir, nous, on ne va pas se préoccuper trop des criminels, des cybercriminels ou tout ça. On parlera peut-être, si vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission, on parlera peut-être de Jean-Michel Trogneux, parce que moi, j'aimerais bien quand même savoir si on peut le profiler, ce Jean-Michel Trogneux. Alors, peut-être que tout le monde ne comprendra pas l'allusion, mais vous comprendrez tout à l'heure de quoi il est question. Un hashtag qui a fait fureur dans les réseaux sociaux. Alors, on va revenir à notre expérience 2000 grammes. Et par rapport à notre expérience 2000 grammes, moi, je vous propose un petit extrait. Alors, cette fois-ci, vous allez avoir avec la vidéo, vous allez la voir en son et en image pour ceux qui ont la possibilité de le voir, puisqu'on fait aussi un partage vidéo sur ces salons vocaux. C'est un outil extraordinaire, Telegram. Et en fait, c'est une vidéo qui a été montée, réalisée par une chaîne qui s'appelle L'Heure de se réveiller. J'ai envie de dire qu'il s'appelait L'Heure de se réveiller, parce que pour ceux qui l'ont connu, en fait, c'est une personne. D'ailleurs, tiens, ce serait intéressant que tu nous profiles cette personne, même si je pense que le son de sa voix a été déformé. Mais c'est une personne, en fait, qui vient du monde de l'audiovisuel et qui, je ne sais plus quand est-ce que ça a démarré, si c'était en 2019 ou en 2020. Il a commencé à faire des vidéos de divulgation, justement, pour faire avancer la vérité. Il a vu tellement de choses horribles, justement, dans son monde audiovisuel, dans le monde de la télé et du cinéma, qu'il s'est dit qu'il voulait faire sa part de travail pour la divulgation. Et il a fait des vidéos extraordinaires parce qu'il était du métier, en fait. Et ça a marché du feu de Dieu jusqu'au moment où il a fait une vidéo de trop, quelque part, où il a fait une vidéo sur les connexions entre la secte Nexium et la famille Bronfman, donc les alcools et spiritueux aux États-Unis, au Canada, l'une des plus riches au monde, et puis la ville d'Apt, où justement le réseau Nexium venait s'installer. Et malheureusement, il s'est collé un procès aux fesses, comme ça arrive souvent avec les lanceurs d'alerte. Et depuis, il a été complètement neutralisé et on ne voit plus malheureusement ces magnifiques vidéos de L'Heure de se réveiller, même si elles sont, enfin, pas toutes, mais certaines sont encore visibles sur YouTube, mais il ne produit plus rien. Voilà un exemple de travailleur de lumière qui a malheureusement été neutralisé par l'ombre. Et donc, voilà, je vous soumets un petit extrait à propos de l'expérience 2000 grammes qui est notre sujet de ce soir. C'est parti.
Next one, slow. Wrong. Anders neck, 300 volts.
Vous connaissez sûrement déjà l'expérience qu'a fait le psychologue juif américain Stanley Milgram entre 1962 et 1963. Mais pour étayer mon propos et tout de même partager cette expérience avec ceux qui la découvrent, je vais l'utiliser comme exemple factuel.
problem I wanted to study was a little different. It went a little bit further. It was the issue of authority. Under what conditions would a person obey authority who commanded action that went against conscience?
L'expérience est très simple. Prenez un individu qui sera votre sujet et offrez-lui le titre de professeur. Un deuxième individu, votre complice, jouera le rôle de l'élève. Le troisième et dernier individu représentera l'autorité au-dessus du professeur. Vous me suivez, hein, jusque-là? Bien. Placez le professeur, le seul véritable sujet d'expérience, face à une machine qui va, du moins c'est ce que pense votre sujet, envoyer des charges électriques à chaque fois de plus en plus fortes à l'élève, votre complice, s'il ne répond pas correctement aux questions qu'on lui pose. La première intensité étant de 15 volts.
And you increase the shock one step on each era.
Et la plus forte de 450 volts.
Nice and tame. Wolf, bear, dog, cat. Wrong. Answer is bear. 240 volts.
No, you go back up to the beginning of that page and go through it again until he's learned them all correctly.
Oh, no. No, I'm not going to kill that man today. Do you mean I got to keep going up with the scale? No, sir, he's already there. I'm not going to give him 450 volts.
The experiment requires...
I know it does, but that man is hollering in there, sir.
La voix de l'homme qui parle au sujet incarne l'autorité et lui demande de continuer, malgré les cris de souffrance, toujours fictifs, de l'élève. Il ne s'agit pas ici de mesurer ce que nous voulons ou ne voulons pas faire, mais de mesurer notre degré d'obéissance face à une autorité, sans contrainte physique aucune.
Il va arriver un moment où il va y avoir un conflit intérieur entre son obéissance et son individualité, sa conscience. Est-ce que c'est la rupture de ce moment que Milgram a étudié?
Ce que l'on tire comme conclusion, c'est que 63% des sujets sont allés jusqu'au bout de l'expérience et deviennent des bourreaux lorsqu'ils sont soumis à une autorité.
Donc voilà pour l'extrait. 63% des personnes deviennent des bourreaux. Je trouve ce chiffre effectivement intéressant. Et ce qu'il ne dit pas, en fait, c'est que les hypothèses des psychologues, psychanalystes de tout poil de l'époque, avant que cette expérience de Milgram soit effectivement réalisée, s'imaginaient que les personnes qui iraient donner jusqu'à une décharge de 450 volts, donc à l'apprenant, quelque part, ne constitueraient que 0,1% ou 0,2% de la population, à l'image de ces personnes qui étaient sur les bancs des accusés lors des procès de Nuremberg. Et en fait, tout est parti de là. Hein. Ces expériences de Milgram partent de la constatation de ces nazis qui ont, sur les bancs des accusés, avaient l'air des gens tout à fait normaux et banals, on ne plus banal. Ils avaient commis les pires atrocités et ceux qui assistaient justement à ces procès se posaient la question, mais comment des gens aussi simple, qui n'avait pas l'air d'être méchant, exprimer une méchanceté particulière par nature, avait pu réaliser de telles atrocités. Donc c'est l'origine en fait des expériences de Milgram. Donc voilà, donc 63% de la population potentiellement peut devenir un bourreau si l'autorité le lui demande. C'est la conclusion de cette expérience. Et bien, vous êtes-vous posé la question dans le cadre de cette plandémie, combien de personnes seraient prêtes à vous enfermer dans un camp parce que vous avez fait le choix de la non-vaccination? Nadine, t'es-tu posé la question?
Oui, j'ai fait un article semi-scientifique puisque je ne l'ai pas publié dans un journal scientifique, parce que ça ne m'intéresse plus, sur mon, justement, nadinetouzeau.com. Alors, on parle de 63% et on dit on attend 63% pour pas appuyer sur le bouton plus de 400 volts. Moi, déjà, le premier bouton me choque. Déjà, le 15, tu vois, je crois que c'est 15, le premier, je sais plus. Il faut déjà se poser la question de se dire comment est-ce possible déjà qu'on appuie sur le premier bouton. Si c'est déjà ça qui est énorme, parce que on arrive jusqu'à un certain nombre de volts pour pouvoir se dire je peux aller jusque-là, même si l'autre hurle, et je continue quand même parce que j'ai l'autorité qui me rassure, qui me dit, etc. Parce qu'il faut quand même que l'autorité, au bout d'un moment, dise mais non, finalement, c'est pas très grave, vous inquiétez pas, ça va juste le piquer, enfin, des petites choses comme ça. Mais déjà, le premier bouton, rien que ça me choque. Qui a le droit de faire du mal à autrui, à qui que ce soit? Juste ça. Et sur la pandémie, on parle de 63%. Donc là, on est sur une période, dans un environnement, dans un contexte, dans un pays différent de la France, avec une autre culture, une autre approche, etc. Donc on se base là-dessus pour dire 63%. Reproduisons la même expérience, exactement la même, au Saint-Sceau, dans la même époque, ou à une autre époque, ou à une autre culture, à un autre pays, etc., etc. On n'aura pas les mêmes chiffres. On n'aura pas du tout les mêmes chiffres. Il y a des pays qui refuseront de faire du mal à des gens comme ça. Il y aura des chiffres plus bas. Et puis dans d'autres pays, ce sera peut-être plus haut. Plus le pays est lobotomisé d'esprit, c'est-à-dire qu'il n'a peu de discernement, de réflexion, de capacité à se remettre en question, de réfléchir, d'être plus dans l'amour, moins les chiffres sont élevés, de fait. Et inversement. Donc si les personnes, bon, c'est dans l'autre sens. Je suis dyslexique, hein, faut pas s'affoler. Des fois, ça fait l'inverse. Et là, par rapport à la pandémie, alors on parle d'interner dans des camps, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les familles pour ceux qui ne portaient pas de masque, pour ceux qui ne sont pas injectés, pour ceux qui ne suivaient pas bien le confinement, blablabla, avec leur publicité, manger à 15 mètres les uns des autres, les gens qui ont osé faire de la délation, ce qui est interdit, hein, je le rappelle quand même depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'on fait de la délation des voisins ou de ceci et de cela, on n'est pas dans l'expérience de Milgram avec tout ça? Combien il y a eu de gens qui sont passés à l'acte, qui ont osé dire votre masque, il n'est pas soulevé, qui ont osé avoir des comportements, vous rentrez pas dans tel magasin parce que vous avez une visière. Moi, je l'ai vécu il y a pas longtemps parce que je ne porte que des visières quand je dois les porter et jamais à l'extérieur. Quand on est dans des familles, j'ai entendu ça par certains de mes clients qui m'ont dit qu'ils n'ont pas pu passer le Noël en famille parce qu'il y a un père ou une belle-mère ou je sais pas quoi qui a dit si vous êtes pas, vous n'avez pas fait le test PCR et tout, vous venez pas. Alors, ils sont pas venus. Que des choses comme ça. On n'est pas dans l'expérience de Milgram, là, parce que ça fait mal, ça, aux gens. Ça, c'est pas peut-être 10 volts, 15 volts, 30 volts, 400 volts, mais c'est autre chose qui fait mal aux gens.
Alors, il y a quand même une différence. Il y a quand même une différence. Donc là, on est effectivement quelque part sur une expérience de 1000 grammes à l'échelle planétaire, c'est ce qu'on est en train de vivre, mais il y a quand même une différence fondamentale par rapport à l'expérience de base dont on vient vous parler, passer l'extrait, pardon. C'est que dans cette expérience de 1000 grammes des origines, il n'y a pas de désinformation du sujet. Aujourd'hui, nous, à l'échelle planétaire, nous vivons une désinformation massive. Donc, j'en parlais justement dans l'émission de samedi dernier. Les journalistes, d'une façon générale, des médias mainstream, participent à ce crime contre l'humanité en soutenant les politiques, en ne révélant pas les vérités, en cachant les vérités. Mais en réalité, aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde, il est désinformé. C'est-à-dire que, effectivement, il ne sait pas ce qu'il y a dans les vaccins, mais il se dit, bon, bah, c'est pas bien grave, c'est pas grave que je ne sache pas qu'il y a dans les vaccins, je leur fais confiance. Oui, mais ce serait bien quand même de s'informer. On lui dit qu'il n'y a pas de traitement contre la COVID-19, alors qu'il y en a. On lui dit beaucoup de choses pour quelque part aussi anesthésier ce potentiel sentiment de culpabilité ressentir. C'est-à-dire que là, il n'a pas du tout l'impression d'envoyer du voltage. Pour lui, il ne fait que. Alors, certes, il obéit à l'autorité, sans le savoir. D'ailleurs, pour lui, c'est pas une autorité, c'est juste une réalité scientifique, même si c'est une réalité virtuelle, hein, c'est un narratif, bien sûr. Pour nous, on a bien compris que c'est un narratif et c'est complètement virtuel, ce récit. Ils sont rentrés dans une réalité virtuelle, dans une psychose collective, mais ils n'en ont pas conscience. Donc, c'est quand même ça la différence fondamentale par rapport à l'expérience de Milgram des origines. À l'origine, il n'y avait pas de désinformation du sujet.
Alors, il n'y a pas une désinformation dans le sens propre du terme, parce qu'à l'époque, la manipulation était moindre et les médias étaient très nettement moins importants. Mais il y a quand même une désinformation dans le sens où l'autorité rassure. Si tu regardes bien l'expérience de Milgram, quand la personne doute qu'elle commence à pas être bien, l'autre va la rassurer en lui disant « si, si, tu peux appuyer sur le bouton, ça risque rien ». Et donc, quelque part, il y a une désinformation. Et l'autre y croit. Pourquoi ? Parce que c'est un chercheur, c'est parce que je ne sais pas qui, c'est une autorité. Une autorité, mais qui l'estime au-dessus de lui. Il y a seules les personnes qui ont des profils où ils ne veulent vraiment pas faire du mal à quelqu'un, ou ils ne veulent pas comprendre cette expérience, ou ils la rejettent, ou ils considèrent que ça les dépasse, ou ils considèrent que... Enfin, il peut y avoir des tas de critères qui vont faire, qui vont pas la faire, cette expérience-là, ou ils vont vite arrêter. Mais les autres qui sont dans un doute, ils vont basculer parce que il faut les rassurer. De toute façon, pour pousser cela, c'est un peu comme la Seconde Guerre mondiale, pour convaincre de remplir des trains qu'ils ne vont pas aller dans des camps de concentration, mais juste des camps, entre guillemets, il a fallu leur mentir, leur rassurer et leur dire « si, si, vous pouvez y aller, vous êtes sûr, là, les gens, on les enteste dans des trains, tout ça. » Mon grand-père, hein, il a été à Dachau. Il n'en parlait pas beaucoup, mais ça, il en parlait. Et les gens, ils disaient « oui, oui, non, mais ils ne reviennent pas, les gens. Mais si, ils reviennent, t'inquiète pas, tu vas dans un camp, on va juste te mettre dans un camp, t'es un prisonnier de guerre. » Donc, toujours un process de... Excuse-moi, Hervé, je finis, si tu permets. Il y a toujours, pour une personne qui est dans un doute en comportement, si à un moment donné, elle est dans un doute, elle va réfléchir, et il y a peu de chances qu'elle active plus. Si elle active plus, il faut que tu lui mettes une carotte. Et la carotte, il faut qu'elle soit conséquente. Donc après, c'est une question aussi, encore une fois, d'époque, une question d'environnement, une question de culture. Il y a tout qui rentre en ligne de compte, qu'il faut intégrer. La manipulation de masse par les médias ne date pas d'il y a 2 ans. Elle date depuis très longtemps. Et ça a été mis en place depuis la création de la télévision. C'est dans un de mes livres, je l'ai dit. C'est pas la cybercriminalité qui a créé tous ces problèmes, etc. Ça n'est qu'un véhiculateur. C'est la télévision qui l'a créé, qui à l'origine était dans un but informatif. Et ils se sont dit après, c'est un outil juste génial pour manipuler les gens et raconter tout et n'importe quoi. Et on l'a bien découvert. Tout le monde a cru qu'ils ont marché sur la Lune, comme tout le monde a cru le 11 septembre, et ainsi de suite. Et toutes les autres stupidités qu'on a pu nous bourrer le mou comme cela. Faire un discernement, après, est extrêmement compliqué. Où est-ce qu'on nous ment? Où est-ce qu'on nous dit la vérité? Ça n'est pas toujours facile. On voit tellement d'informations et de désinformations, puisque c'est une guerre psychologique, au-delà d'être une guerre interstellaire, et ainsi de suite. Donc, il faut tirer le coup, et c'est ce qui est le plus dur. Comment on fait? Donc, dans le doute... La plupart des gens se mettent en retrait ou prennent une position qu'ils assument plus ou moins en se disant « je crois en cela ». Et donc, quand tu es dans l'expérience de 1000 grammes, dans le doute, « non, j'arrête, je ne peux pas faire mal, l'autre crie, etc. » Mais je te rassure, attends, c'est rien, c'est juste 400 volts, c'est rien du tout. Tu peux appuyer, de toute façon, il y a des médecins autour, c'est rien du tout. Alors l'autre, il se dit, s'il le dit, c'est que je peux le faire. Pour celui qui n'a pas suffisamment de discernement, de recherche et tout. Tu vois, c'est juste l'expérience qui a évolué. C'est qu'aujourd'hui, ils ont amplifié l'expérience de Milgram. C'est ça la nuance, parce qu'elle est basée aussi sur une forme de manipulation. Il y a plusieurs formes de manipulation. On parle toujours de manipulation, comme ça, globalement. Mais en fait, il y en a plusieurs, et elles évoluent. Et ce n'est pas des pervers narcissiques, c'est bien manipulation. Ce n'est pas la même chose. Et c'est ça, je pense, qu'il faut voir, à mon sens, hein. C'est mon opinion, c'est comme ça que je vois les choses, c'est quand on remet dans le contexte, dans l'histoire, nous, on n'y était pas à cette époque-là. Mais il n'y avait pas autant de manipulation. Les médias étaient encore relativement purs. Il y avait pas... les gens faisaient beaucoup plus confiance qu'aujourd'hui. Tu claquais la porte d'un patron, tu avais un boulot en face, tu pouvais parler franchement, tu n'avais pas le politique correct. Donc, si quelqu'un te disait « tu peux me faire confiance », il n'avait aucune raison de remettre en doute ta parole, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Tu vois où je veux en venir, Hervé?
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, donc, j'aime bien cette comparaison. Le fait que l'autorité rassure est en soi une des informations. Mais alors, il y a quand même un élément important qui est sous-jacent, dont on n'a pas encore parlé, c'est que l'autorité, finalement, qu'est-ce qu'elle dit lorsqu'elle rassure? Elle dit « je prends la responsabilité de tes actes. Tu n'es qu'un simple exécutant ». Et c'est aussi ce qui se passe actuellement avec cette expérience planétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le médecin qui décide finalement d'aller vacciner dans les centres de vaccination, qui va se faire beaucoup d'argent avec ça, il a délégué sa responsabilité à l'État. L'État lui a dit « il faut faire ça », ou l'ordre des médecins, donc, qui a été créé sous le régime de Vichy, comme vous le savez tous, et l'ordre… Enfin bref, tous ces ordres qui sont derrière les dentistes, les aides-soignantes, les infirmières, etc., qui ne sont finalement que des groupies de l'État, ils prennent la responsabilité pour les praticiens, et quelque part, ils les dégagent de leur responsabilité. Et c'est là aussi qu'on est finalement dans l'expérience de Milgram, c'est-à-dire qu'ils pourront toujours s'appuyer sur une autorité supérieure. Le jour où on montrera que bah, finalement les vaccins, ça tue, finalement qu'il y avait des traitements qui soignaient, mais on n'a pas voulu les utiliser, ils pourront toujours dire « Ah ben non, c'est pas moi, c'est le gouvernement, c'est le ministre de la Santé, c'est l'ARS, etc. etc. »
Exactement, sauf que quand le gouvernement et tout ça vont dire, quand ils vont se retourner contre le gouvernement et ainsi de suite, quand on dit aux clients s'ils risquent de perdre leur travail et tout, de leur faire signer à leur employeur un document, quoi, tout va bien se passer, je la fais courte, hein, mais il y a tout un tas de d'éléments indiqués sur le courrier que l'on trouve, c'est Carlo Brusa qui a fait ça, je crois, et d'autres personnes qui sont très bien, d'autres avocats qui sont très bien. Que, en gros, vous signez ça et tout ira bien pour moi, et là, je peux me faire injecter, et qu'on se retourne après contre ces personnes-là, c'est le chat qui va se mordre la queue parce qu'il y aura le fameux « Jacques n'a pas dit », comme le jeu « Jacques a dit, Jacques n'a pas dit » pour les anciennes générations qui connaissent ça. Enfin, les anciennes, on n'est pas des anciens, mais je veux dire, de notre génération, on connaissait ce jeu-là. Et c'est exactement ce qui se passe. Ce n'est qu'un pur jeu où ils jouent sur, entre guillemets, nos nerfs, notre psychisme, notre comportement, nos vies, et ainsi de suite, pour voir comment on va réagir. Et plus on rentre dans leur jeu, plus ils jouent. Moins on rentre dans leur jeu, plus ils vont devenir violents. Les gens, dernièrement, étaient en colère de des expressions choquantes, mais calculées, du squatteur de l'Élysée. Et c'est là où je me suis dit, là, il y a un truc qui l'a titillé grave, c'est qu'ils sont vraiment en train de perdre le jeu. Et l'effet est, c'est qu'après, il y a certains chiffres qui sont tombés. Moi, je l'ai mis sur ce compte-là, mais c'est peut-être autre chose. Plus d'autres sujets qu'on parlera peut-être à la fin de l'émission, puisque tu l'as annoncé tout à l'heure. C'est que, en fait, il y a la moitié de la population qui n'a pas été vaccinée, qui n'a pas été injectée. Ce que je pensais, moi, depuis le début. Je faisais partie des gens qui pensaient qu'on était à peu près la moitié. Parce que je sais que le français n'est pas aussi idiot que ça. Et qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés à la primo-injection et d'autres à la secondo-injection. Et qui n'iront pas plus loin. Donc ça veut dire que là, ils sont en train de perdre sérieusement pied. Donc ils deviennent de plus en plus violents puisqu'on ne rentre pas dans le jeu. Et c'est là où on se détache de cette particularité de se dire « j'appuie pas sur le bouton de faire mal à l'autre ». Mais c'est pas uniquement dans l'injection, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est dans le comportement dans les familles. Combien de couples sont divisés, combien de familles se sont chamaillées, heurtées, voire séparées. Des couples, je vois, il y en a, parfois c'est monsieur qui est injecté et pas madame. Il faut voir dans quel état madame est. J'ai le cas aujourd'hui encore en coaching où voilà, et c'est, quand on est face à ça, c'est compliqué. C'est on fait, la femme a fait tout ce qu'il fallait et lui, ben non, il reste sur BFM à mort et elle peut rien faire. Et qui est-ce qui souffre vraiment? Ben c'est celui qui reçoit les 400 MHz, c'est la femme. Parce qu'il a appuyé sur le bouton. C'est une autre forme. Tu vois, c'est truc, c'est vachement vicieux.
J'aime bien ton petit lapsus, les 450 MHz, en fait, parce que bon, c'est des volts dans l'expérience de Milgram. Mais en réalité, comme on sait qu'il va y avoir un couplage justement entre les ondes électromagnétiques et les possibles puces qui nous sont injectées, effectivement, ça va peut-être bien être même des gigahertz qui vont nous être injectés à notre insu. Ouais.
Pardon, alors, oui, merci de me reprendre. Tu as raison, c'est ça.
Juste justement par rapport à l'extrait de reportage donc de l'heure de se réveiller qu'on vous a montré à l'instant, donc vous avez vu Henri Verneuil, donc le metteur en scène donc du film Icom Icar qui est intervenu et qui parle justement du point de bascule. Donc ils étaient à la recherche de ce point de bascule. Mais comme tu viens de le dire, Nadine, en fait aujourd'hui ce point de bascule c'est leur terreur. C'est-à-dire que Ils nous poussent à bout quelque part, mais ils espèrent que ce point de bascule n'ait jamais lieu, sachant que c'est un point de bascule collectif, ce n'est pas un point de bascule individuel. Mais c'est vraiment ce dont ils ont le plus peur, parce qu'arriver un moment, effectivement, lorsque, peut-être d'après la loi du centième singe, une certaine masse critique de la population aura compris toutes ces atrocités, il va y avoir un point de bascule.
Oui, mais alors, il y a l'individuel aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens de masse. Par exemple, sur les gilets jaunes, ils ont appuyé sur certaines personnes qui les ont fait basculer dans leur sens, qui se sont laissés manipuler ou acheter, peu importe. Il y a eu les deux, à mon avis. Et ou alors certaines personnes qui s'étaient bien en avant, qui faisaient certaines actions plus ou moins bonnes, j'ai pas à les juger, c'est pas trop ça que je regarde, c'est plutôt le comportement, qu'ont changé de comportement après, parce qu'ils ont appuyé sur certains éléments, etc. Ils savent très bien faire, ça, je connais très bien leur technique, ils savent très bien faire. Donc tu peux avoir un individu qui est capable de mener une masse. Une masse, c'est la masse dans notre métier, c'est la population quand il y en a beaucoup, quand il y a beaucoup de gens. Et ils vont appuyer là-dessus, ou ça va être aussi sur la masse. Mais c'est par le diviser pour mieux régner dans un premier temps. C'est de mettre des suspicions, des divisions, de jouer sur le fait qu'on considère que le système bon a raison, ce qu'on enseigne à l'école, tous ces ingénieurs qui sortent des écoles, tous ces grands diplômés, tout ça, que j'ai rien contre, ils sont très bien, il n'y a rien à dire là-dessus, mais on leur bourre le mot avec ça, qu'il faut faire confiance, que tu dois avoir confiance, sauf que depuis de nombreuses années, la confiance, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas avoir envers ces gens-là. Moi, personnellement, ça fait de très nombreuses années que je mets énormément de choses en doute, et je continue, et je ne suis pas la seule. Et de voir qu'on n'est plus seul aujourd'hui, ça fait du bien du reste. Et cette situation de vouloir appuyer en gros là où ça fait mal, c'est ce qui fait mal en collectif, ça ne sera pas forcément le mal de tout le monde. Il y en a, c'est faut toucher les enfants, il y en a d'autres, c'est faut pas toucher les vacances, il y en a d'autres, c'est faut pas toucher le restaurant, il y en a, c'est faut pas toucher le sport. Donc c'est un collectif, mais individuel aussi, dans ce sens-là. C'est l'individuel de tête de pont, mais c'est aussi l'individuel en fonction de ce que chacun voit. C'est pour ça qu'ils ont tapé partout. C'est de voir, parce que le français, c'est un épicurien quelque part. Il aime bien aller au restaurant, il aime bien un bon verre entre amis, et puis se faire des barbecues avec plusieurs potes, des grands mariages, des grands ceci, des grands cela, bref, de bouger, de voyager, etc. Il vit, ce qui me semble totalement normal, mais le français fait partie de ces peuples qui vit plus que d'autres peuples. Et il est un petit peu assisté aussi, le français, un peu beaucoup même. Donc du coup, ils ont très bien calculé leur coût. C'est que dans certains pays, on n'applique pas forcément toujours la même chose que dans ce pays-là. Le nôtre. Et comme le français est dans ce sens, dans cet esprit-là, et qu'il n'est pas trop partousard, excusez-moi, donc on ferme une discothèque, mais on laisse les partous ouvertes. Voilà. Donc c'est là où on voit à quel point c'est vicieux. C'est regarder les gens qui se sont fait injecter. Ah, moi, c'est parce que j'ai besoin d'aller au restaurant. Ah, bah, moi, j'ai besoin de mon travail. Ah, bah, moi, non, mais il faut que j'aille aux États-Unis voir ma fille, et ainsi de suite. C'est pas la même histoire. Donc, comme ils voulaient être sûrs de réussir leur coup, ils ont tapé partout. C'est pour ça qu'il y a plusieurs pôles sur lesquels on appuie pour être sûr de verrouiller au maximum. Sauf que les gens, ils ont quand même un minimum de discernement. Il y a beaucoup de gens qui étaient éveillés et qui ont essayé d'en éveiller d'autres. Et c'est un travail de fond formidable qu'énormément de gens ont fait, dont tu fais partie, dont je fais partie, dont certainement toutes les personnes qui nous écoutent, et ainsi de suite. Et ça, il faut qu'on continue aussi. Mais c'est surtout ne pas jeter la pierre à ceux qui se sont fait injecter. Parce que là et maintenant, ils n'ont plus de camp, en fait, entre guillemets. Si je vais où, je vais à droite, je vais à gauche. Donc ça, il faut être prudent. Ils ont choisi, c'est leur choix, c'est leur libre arbitre. Mais c'est de dire derrière que ces gens-là vont être beaucoup plus en colère que ceux qui n'ont pas été injectés. Parce que eux, ils vont avoir le sentiment qu'ils se sont vraiment fait avoir. C'est pas la même chose. Et c'est là où la bascule, elle va vraiment se faire. Elle va se faire sur cette population-là qui va rejoindre les non-injectés. Parce que eux, ils vont être en colère. Vous avez fait quoi de mon corps? Vous nous avez dit, on croyait être patriote, on croyait ceci, on croyait cela. Et en réalité, non. Vous vous êtes moqué de nous. Puis ça va bien 2 minutes, là. Une fois, deux fois, et maintenant 3 fois. On parle déjà de 5e injection. Bah, ils en ont prévu 14, paraît-il. Donc, et la 4e commence à s'arrêter en Israël. Mais toutes ces informations ne filtrent pas suffisamment en France. Ne viennent pas suffisamment. Il faut s'instruire, il faut s'informer. Dans l'expérience de 1000 grammes, il faut travailler beaucoup, il faut courir pour récupérer le gamin à la crèche, parce que les 35 heures, il faut pas que tu te dépêches, ta nounou va pas faire plus d'heures, parce que sinon ça va te coûter plus cher, et ainsi de suite. Donc, le soir, quand ils arrivent chez eux, les gens, ils en auront la casquette, ils ont plus envie de se taper une vidéo qui va les instruire, ils ont qu'une seule envie, c'est de préparer tout ce qu'il y a à préparer le soir, et aller se reposer pour recourir le lendemain matin. Ça, tout ça, ça fait aussi partie de l'expérience de 1000 grammes. C'est des trucs détournés, complètement détournés. Donc tu vois, ils appuient sur tout. C'est bien préparé, c'est bien ficelé, c'est super vicieux et ça dure depuis pas mal d'années.
Ouais, c'est de l'ingénierie. Il y a de l'ingénierie sociétale hein, derrière, effectivement. Hein, avec un, je pense que, ouais, tout à fait. C'est très, très bien étudié et très bien ficelé. Alors on va introduire un petit peu d'interactivité. Donc, on est toujours dans l'expérience de 1000 grammes. Donc, pour ceux qui souhaitent intervenir ou poser une question, allez-y, on vous donne la possibilité de le faire. Et le temps que vous vous décidiez, je voulais rajouter un point, mais ce point est en train de m'échapper.
Donc, voilà. Tu me copies là. Ça va revenir.
Non, oui, voilà, ça y est, ça me revient. En fait, c'est puisqu'on est sur une radio Jedi quelque part, eh bien, on va faire un parallèle justement avec les mécanismes matriciels. En fait, c'est une notion qui a été abordée plusieurs fois dans nos émissions, et notamment avec Romain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait quelques émissions avec Romain qu'on estime être un primo arrivant dans cette matrice. Et en fait, à propos justement de cette expérience vaccinale, il nous parle de forcer le consentement. Et en fait, c'est ça, on force le consentement. Dans l'expérience de 1000 grammes, voilà, la personne, à la base, elle n'a rien demandé, elle a envie d'envoyer des volts, mais on lui demande de le faire, on lui demande d'y consentir, puisque c'est sa main qui le fait, donc il y consentit, et on lui force le consentement. Et en fait, c'est vraiment la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de nous mettre à bout, effectivement, avec le chantage des salles de sport, des restaurants, des voyages, etc., pour forcer notre consentement, sachant que, quelque part, après, derrière, eh bien, ils pourront toujours se réfugier derrière ce consentement. Et d'ailleurs, je pense que vous avez tous vu passer ça sur les fils, sur les réseaux sociaux, mais il y a une personne, une personne se retourne vers le ministère, vers l'ARS pour dire, voilà, telle personne de ma famille est morte suite de la vaccination, je demande réparation. Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui dit, la vaccination n'était pas obligatoire. Voilà.
Et on va forcer votre consentement. Plus que ça, si je puis me permettre, pour continuer sur ce que vient de dire, c'est que non seulement la vaccination n'était pas obligatoire, mais c'est qu'en plus vous avez accepté une expérience médicale de type génique. Et donc là, on le voit sur les assurances vie. Moi, c'est un sujet sur lequel j'étais au courant depuis quelques temps, puisqu'un de mes partenaires professionnels en est choqué. Il est en train de préparer une émission sur laquelle il veut me faire intervenir, mais de très grande ampleur. Apparemment, je n'ai pas tout suivi ce qu'il veut faire, mais il m'a dit « je t'embarque dans la boucle ». Bon, je lui ai dit « ok, si tu veux ». Et il était choqué parce qu'il m'a dit « des gens portent plainte pour récupérer l'argent de l'assurance vie suite à un décès par injection ». Et le tribunal donne raison aux assureurs, comme quoi, ben non, il a voulu faire une expérience, donc c'est une forme de suicide. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et autre cas qu'on m'a annoncé ces jours-ci, c'est aussi dans les crédits à la consommation pour une maison ou des choses comme ça, il y a écrit à un moment donné, apparemment, moi j'ai jamais eu de crédit de ma vie, donc je sais ce que c'est, mais apparemment, il est écrit sur peut-être tous les crédits ou certains crédits, en tout cas, c'est le cas pour cette personne-là, une de mes clientes, que vous n'avez pas le droit de faire une expérience médicale. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent tout perdre. Donc ça, les gens ne sont pas avisés de ça et on ne les a pas volontairement avisés de ça parce qu'il faut aller jusqu'aux 400 et quelques volts. Enfin, je ne me trompe plus.
450 volts. Voilà. Bon, alors, en l'occurrence, je ne vois pas de main qui se lève. Donc, s'il n'y a pas de main qui se lève, je vais devoir passer à mon deuxième extrait. Et, vous êtes sûr? Pas de questions, pas de témoignages?
Tu sais, c'est un sujet qui est difficile. Il est très difficile, Hervé. C'est peut-être normal qu'il n'y a pas de main qui se lève parce que ce n'est pas un sujet évident à comprendre. C'est un sujet qui, peut-être, les gens, ils vont voir que ça vibre en eux. Mais c'est scotchant, hein, quand même, de dire comment on joue avec les êtres humains. Comment on joue avec des êtres humains. C'est, et ça ne fait pas que 2 ans. Les gens se sont réveillés avec l'histoire du SARS-CoV-2. Mais ça ne fait pas que 2 ans. Quand on vous obligeait à... Ne serait-ce que vous obligez à vivre comme tout le monde vit, entre guillemets. Il faut travailler, il faut faire vos 8 heures par jour, ou il faut aller en vacances tout le monde en même temps, quasiment tout le monde au même endroit. Vous partez du samedi au samedi pour les locations. Enfin, tout est comme ça. Tout est comme ça. Et tu sais, ce n'est pas un sujet qui est facile, mais c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de questions.
Alors, il y en a une. Alors, il y a une personne qui a levé la main. Donc, Picoluse, vas-y.
Oui, bonsoir. Oui, j'ai dit aussi, ensuite à ce que je viens d'entendre, que du fait que les personnes ont accepté de recevoir cette injection de la part des laboratoires, leur corps ne leur appartient plus. C'est un matériel de laboratoire qui appartient au laboratoire. puisque les vaccins sont...
Oui, c'est ce qui est dit en effet, et on les appelle apparemment, dans, notamment aux États-Unis, ils ont été confirmés comme entités biologiquement modifiées. C'est en effet, à partir du moment où ils ne leur appartiennent plus, puisqu'ils ont accepté l'expérience génique de ces choses monstrueuses qu'ils ont mis, qu'ils n'ont pas voulu détailler d'ailleurs, qu'ils ont mis dans les injections.
Qui ne leur a pourtant jamais été présenté comme une expérience de thérapie génique.
C'est exact, je connais beaucoup de gens qui n'ont pas signé le papier. Ou j'ai entendu parler d'autres personnes, moi dans mes proches, je n'ai pas d'injecté, mais j'en ai mes clients sont impactés et n'ont jamais signé le papier.
Mmh. Oui,
forme de manipulation.
Je me demande comment donc ils peuvent faire valoir que ces organismes leur appartiennent de fait.
Alors nous, vous savez, en spiritualité, on a des outils super puissants et qu'on utilise d'ailleurs, on peut en parler, hein, c'est justement puisque ça fait partie de notre arsenal de Jedi et notamment des outils d'annulation des contrats. D'annulation des contrats, quels qu'ils soient, que ce soit des contrats effectivement explicites ou des contrats implicites, des contrats d'âme, des contrats que vous auriez même signés dans d'autres vies, pourquoi pas. Et je pense que face à ce que vous nous dites là, donc on perd la propriété de son corps quelque part, peut-être, mais moi j'ai envie de vous rassurer, j'ai envie de vous dire, attention, vous avez un outil, vous vous reconnectez à votre présence spirituelle, à votre être-té divine, vous affirmez votre souveraineté et vous pratiquez l'annulation des contrats et tout ceci sera nul et non annulé.
Oui,
voilà, faites l'exercice, enfin vous n'êtes pas concerné, mais oui, c'est ça, suggérez-le.
C'est vrai que les personnes qui n'écoutent pas, enfin qui ne sont pas abonnées à ces canaux spirituels, n'ont pas ces solutions-là à leur disposition. Et sont un peu perdues. Tout à fait.
Alors, il y a surtout une chose qu'il faut... Pardon, je te laisse finir, Hervé.
Vas-y.
Il y a surtout une chose qu'il faut intégrer, qui fait partie aussi de mes travaux de recherche, mais humblement, parce que je l'ai fait, comme d'habitude, j'ai tout fait toute seule. Mais là, on n'a pas assez de recul. C'est pareil, j'avais mis ça dans une vidéo au mois de septembre, c'est que les comportements des personnes injectées se modifient. Alors comment ? C'est là où c'est compliqué, je n'ai pas un panel assez important. Il peut y avoir de l'agressivité, comme je l'ai dit, comme il peut y avoir de l'effacement, voire carrément complètement endormi. J'ai quelques clients médecins et psy qui me font des retours qui sont parfois très, très, très surprenants. Donc pour le moment, je ne dis trop rien parce qu'il n'y a pas assez de matière, à mon sens, pour faire encore évoluer ces travaux-là et cette vidéo que j'avais postée sur ma chaîne YouTube. Mais toujours est-il, c'est que il faut tenir compte de ça. C'est qu'il y a vraiment des modifications qui s'opèrent. Ça ne se voit pas forcément toujours tout de suite. Ça peut être sur juste 2-3 petites bricoles où on ne va pas y prêter attention, surtout quand on vit tous les jours avec. Parfois, ça peut être carrément assez spectaculaire, notamment dans l'agressivité ou dans l'effacement total, voire l'endormissement total, comme une lobotomie de la personne. Donc, sont-ils capables de recevoir ce genre d'informations? Je dirais que ceux qui sont injectés en colère, il y a des chances. Parce que s'ils se sont mis en colère, c'est qu'ils ont peut-être eu des placebos ou des doses faibles. Ou qu'ils ont su dépasser cela. On ne sait pas. Tout ça, c'est très flou. Ou d'autres choses que j'ignore auxquelles je ne pense pas. On ne sait pas ça, tout ça. Mais en tout cas, ceux-là pourraient être réceptifs. Les autres, j'émets des doutes.
Ceci est très, très intéressant. Des énergéticiens prétendent aussi sentir des différences chez les personnes, entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Moi, des échanges que j'ai eus avec certains énergéticiens, ce n'est pas confirmé. Mais je pense qu'effectivement, toi, en tant que profileuse, tu dois être sensible à des variations subtiles de comportement, surtout si c'est des personnes que tu... Peut-être que c'est le cas d'ailleurs, tu as connu des personnes avant vaccination et après vaccination, est-ce que tu as pu constater des modifications justement?
Alors oui, mais c'est aussi des personnes que je n'ai pas connues, toujours dans le cadre de mon travail, où on m'a parlé de certaines choses, et c'est surtout dans des coachings ou dans des missions de conseil ou de profiling, et en échangeant, en discutant, je posais les questions de avant, après, les personnes ne s'étaient pas posé la question. Je sais, parce que là, pour moi, ce comportement-là, il ne me parle pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne matche pas, ce n'est pas congruent, j'arrive pas à le racoler, et ça ne colle pas au profil de certaines choses que vous m'avez dites. Enfin bref, et donc ça devient flou. Et là, ça devient compliqué. Là, ça devient...
C'est super intéressant. Ce que tu dis, c'est super intéressant quand tu dis ça ne matche pas, ce n'est pas congruent. Parce que, en fait, nous, on avait présenté dans une mise à jour de situation planétaire, on avait présenté, oh là là, il y a plein de mains qui se lèvent d'un coup. On avait présenté ce programme de vaccination, d'ailleurs, qui a été signé par Donald Trump, hein, au passage. Donc, ça s'appelle Warp Speed, hein, aux États-Unis, ce programme de développement de la vaccination. Ça s'appelle, donc il a une forte valeur symbolique, d'ailleurs on avait fait une analyse de ce symbole, et ça s'appelle Warp Speed, en fait ça veut dire l'accélération de la distorsion. Et donc c'est pour ça que je tiens à ce que tu me dis là par rapport au problème de congruence, c'est-à-dire qu'il y a une distorsion qui est introduite dans la personne, le fait de cette coupure avec une partie de son âme peut-être, du fait de la présence de ces puces, il y a une distorsion introduite, et c'est peut-être ça justement que tu ressens.
C'est clair, c'est qu'il y a un mélange dans ces espèces de produits-là, ces nanoparticules qui, à mon avis, ne sont pas terrestres, parce que on ne sait pas d'où elles sortent, elles n'ont pas été fabriquées entre temps, hein, faut quand même pas non plus se leurrer. On ne sait pas d'où ça vient, d'autant plus qu'encore une fois, ils ne sont pas capables de donner tous les éléments, en tout cas les laboratoires qui ont mis ça en place. Mais il y a une alchimie, j'ai mis sur ma page VK une vidéo, mais je ne sais plus de quel pays ça vient. Désolée parce que j'ai un agenda un peu tendu en ce moment, donc je ne retiens pas forcément tout ce que j'ai entendu dans les vidéos. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est leurs travaux de recherche, qui sont vraiment là pour beaucoup des vrais et bons travaux de recherche. Ces scientifiques qui ont bien expliqué comment les nanoparticules et le graphène qui ont été mis dans ces injections se recoupent pour bien matcher et bien mettre en place tout ce qui est la mainmise, en gros, sur l'humain, soit son corps, son fonctionnement, mais aussi forcément tout ce qui est neurologique. Il l'explique bien. Donc forcément, ça impacte le comportement. Hein, parce que les sciences du comportement sont en neurosciences, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est forcément un impact sur le comportement. Et après, ce qui est compliqué, c'est comment, quoi, en fonction des profils, en fonction des doses, en fonction peut-être des cultures. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Et là, pour moi, il y a du taf. Parce que là, c'est voir l'évolution aussi. Il faut voir l'évolution. Est-ce que ça dure juste le temps de l'injection? Est-ce que c'est entre une première et une deuxième dose? Est-ce que c'est si c'est Pfizer ou Moderna ou que sais-je? C'est tout ça dont il faut tenir compte. Et j'ai pas assez de panel pour le faire. Mais il faut être très, très prudent. Parce que c'est de toute façon évolutif. Et ils perdent pied. Ils perdent pied, mais sur quoi? Bah, ça dépend des profils, ça dépend des personnes. Il n'y en a rien du tout. Il y a des personnes, j'ai demandé à des personnes qui connaissent pas mal de personnes picousées, je leur ai dit, alors vous avez vu, mais ils ne les voient pas tous les jours. Ils se parlent parfois au téléphone, tout ça. Donc, il n'y a pas assez de. Je te dis, je n'ai pas assez de recul là-dessus. Par contre, j'ai des clients dont leurs conjoints sont picousés, et j'ai vu même un impact sur les clients. Beaucoup moindre, mais j'en ai vu un aussi. Et par contre, eux ont bien constaté par rapport à leur conjoint qu'il y a eu des modifications.
Ouais, super. Alors, on va prendre la question de Lise. Lise avec un cœur, qui a levé la main depuis pas mal de temps. Vas-y, tu peux activer ton micro, Lise.
Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Merci de me donner la parole. Alors, je voudrais poser une question, puis peut-être élargir un peu le sujet. Je me pose la question de savoir pourquoi en France métropolitaine, le peuple que nous sommes, enfin mes concitoyens qui sont piqués, sont si dociles, si obéissants. Je pense notamment à cette infirmière guadeloupéenne qui a fait l'objet d'une vidéo au cours de laquelle on voit qu'elle s'oppose, enfin qu'elle tient tête à son employeur. Il y a plein de collègues qui sont autour d'elle, ils doivent être dans une salle de conseil d'administration, je crois. On voit qu'elle tient tête et qu'elle dit à son employeur, si vous me dites que la vaccination est si inoffensive, je vous demande simplement de me signer ce papier. Et on voit que le directeur, il est bien embêté, on ne voit pas la fin, mais on se devine qu'il est bien embêté pour signer. Et je voudrais savoir s'il n'y a pas aussi d'autres, si c'est simplement l'autorité, la parole donnée des gens qui sont censés nous représenter, ou s'il n'y a pas d'autres outils qu'ils mettent à leur disposition, puisqu'ils se sont arrogés beaucoup de moyens, beaucoup d'argent à nos dépens. Et je pense entre autres à cette pyramide noire coupée en quatre à Saint-Amand-Montrond, qui est au centre géographique de la France. Je crois que ces effets ont été annulés, mais j'en suis pas sûre, j'en sais rien. Je pense aussi à la puce, enfin aux cristaux de silice qui sont en face du chakra gauche, sur les cartes d'identité, etc., etc., et d'autres choses peut-être que j'ignore. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens que ces gens-là ont mis en place pour renforcer cette obéissance, cette soumission, le fait qu'on ne se révolte pas autant qu'ailleurs, même dans les pays limitrophes de la France, par exemple?
Alors, voilà, déjà, merci beaucoup. Bonsoir, Lise, et merci beaucoup. Alors, déjà, on est considéré comme un peuple de révolutionnaires. dans beaucoup de pays, quand je parle avec d'autres personnes dans d'autres pays, ils sont tous étonnés que la France ne se soit pas autant réveillée. Il y a une chose, moi, que je constate, c'est qu'il n'y a plus les hommes d'avant, ces combattants hommes d'avant. Par contre, il y a plus de femmes combattantes. Et c'est pourquoi peut-être certains disent qu'on va vers une ère féminine, je n'en sais rien. Mais on a beaucoup manipulé encore la population pour dire que, d'abord nous culpabiliser, que c'était pas bien de se rebeller, le politiquement correct, j'en ai parlé tout à l'heure, faut pas dire non, faut pas dire oui comme ça, faut acquiescer au chef, même s'il a tort, tu comprends, faut être rond. Moi j'ai connu ça dans le monde d'entreprise quand j'étais, il y a plus de 20 ans que j'ai lâché ça, j'étais moi-même manager, je comprenais pas, non, je suis désolée, je comprenais pas. Et moi, je me battais. Le politiquement correct, c'était non, ça passait pas. Alors, ça les énervait, mais au moins, ça avançait, les choses se mettaient en place. C'était juste, on pouvait discuter, on allait même parfois à la confrontation, mais la confrontation, c'est quelque chose de positif. Et il faut de toute façon le formuler en positif. Aujourd'hui, faut surtout pas faire de confrontation, faut surtout pas faire de guerre, faut surtout pas faire ceci, cela. Bon. C'est pas dans le sens de suggérer de le faire et de tuer quelqu'un. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire par là, c'est que on a cassé la dynamique de s'affirmer, de se faire respecter et de s'aimer en quelque sorte. Parce que c'est une façon de s'aimer que de se faire respecter. On a cassé ça. Alors, on n'ose pas, parce que qu'est-ce que va dire le voisin? Parce que qu'est-ce que va dire un tel? Parce que, oh oui, mais j'ai peur de l'autorité, de la justice, qui est corrompue. Pas tout ça, mais beaucoup, beaucoup. Parce que tout ça, c'est à la solde d'eux. Donc, c'est préparé depuis longtemps, avec ou non des appuis, des supports dont vous avez cité. Ils prendront tout ce qu'il faut, mais il faut quand même savoir une chose, c'est que il n'y a pas que des terriens hein, sur cette planète. Donc il y a des gens qui sont du bon et du mauvais côté, et ceux qui nous attaquent en ce moment, on a tout de suite compris qu'ils ne sont pas du bon côté. Donc forcément, ils n'en ont rien à faire, ils n'ont pas cette même conscience, ils n'ont pas cette même état d'âme, ils se fichent complètement de savoir s'ils nous font du mal. Eux, ils ont une mission, ce qui les intéresse, c'est de faire joujou avec nous et que ça marche. On ne peut pas matcher de la même manière, on ne peut pas comprendre. Quand les gens disent, mais ils vont se réveiller, ils vont avoir une conscience, mais non, ils n'en ont pas. Donc, tant que vous agissez comme vous, votre profil est, ne bougeront pas parce que ça fait qu'alimenter positivement pour eux votre comportement. Le fait d'être dans la peur, le fait de manifester tout ça, mais c'est bien gentil. Tout le monde dit de manifester. Vous avez bien vu, ça fait combien d'années que vous manifestez quasiment tous les week-ends? Ça fait 2 ans. Ça a bougé? Non, ça n'a pas bougé. C'est bien, bravo, il y a du monde, c'est superbe. Ce qui est bien, c'est que les gens se rencontrent entre eux, ne se sentent pas seuls. Ça, c'est une bonne chose. C'est qu'il n'y a pas de cluster. On voit bien que les gens peuvent être dans la rue, il n'y a pas de cluster. Ça énerve les médias parce qu'il y a du monde, on est d'accord. Mais qu'est-ce que ça a fait bouger? Les lignes n'ont pas vraiment bougé en 2 ans. C'est pas ça, on est en guerre, je rappelle. Donc une guerre, il faut que ça bouge. On ne s'abouge pas. Ça ne veut pas dire qu'on gagne ou on perd, puisque moi, à mon sens, on gagne. Mais on gagne pourquoi? Plus par les éveils. Plus par la désobéissance, par des actions, des vraies actions à mon sens, des actions qui les énervent, des actions qui ne leur font pas plaisir. Manifester, ils s'en foutent, pour eux, ils se disent tant qu'ils font ça, ils ne font pas autre chose, et nous, on a le temps de faire autre chose. C'est ça qu'il faut bien intégrer dans le process. Je ne dis pas que c'est mal ou bien de manifester, je dis que ce n'est pas productif. Ça fait longtemps que je le dis. Au début, c'était bien pour dire on existe, on est là. Aujourd'hui, et depuis pas mal de mois, ça ne sert à rien, à mon sens. Ça, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. D'ailleurs, tout ce que je dis n'engage que moi. Donc, pour moi, il faut agir. Et agir beaucoup plus intelligent et beaucoup plus fort qu'eux. Et plus on le fait, et plus on s'élève, et plus on va là-dessus, et plus on attise leur colère. D'ici, on attise leur colère, c'est qu'on a gagné. Et à un moment donné, ils vont être encore plus violents, et il faut qu'on soit encore plus fort, jusqu'au moment où ils ne vont plus prise. Et c'est là qu'on aura totalement gagné, et qu'on sera complètement libéré. C'est à ce moment-là. On n'en est pas loin, mais ça peut encore mettre des années. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre des coups de collier. Il faut être courageux, il faut être fort, il faut tenir le coup. Et c'est ça le plus dur. Et ça, je sais de quoi je parle, puisque moi, on a tenté de me détruire plusieurs fois. On a tenté de m'enlever ma peau, de supprimer ma vie plusieurs fois. Et je vous entends tous, je vous vois tous dans les réseaux sociaux, tout ça, dire « Ouais, pourquoi on nous en prend comme ça? Pourquoi on nous écoute pas? Oh, c'est dur ce qu'on dit, tiens, on a tué un tel. » Pensons à quelqu'un qui vient de mourir ce week-end, Stéphane Bled, de mémoire. Son nom de famille, bon, moi ça m'a fait de la peine parce que c'est un de plus, voilà. Donc toutes ces choses là et ils nous écoutent pas ici et là, mais ça fait des années qu'on n'écoute pas des gens comme moi, ça fait des années et on a survécu à ça, on a su dépasser cela parce qu'on a su être plus intelligent que ça, parce qu'on a appris Vous nous avez appris, en ne nous écoutant pas, en ne nous faisant pas confiance, à dépasser tout cela. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Sauf qu'aujourd'hui, la poignée de personnes comme moi qui étaient dans cette situation autrefois, aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux. Et nous, on a de l'avance. Et tant que vous ne comprendrez pas ça, ça ne fonctionnera pas. C'est ça le truc, parce qu'il y a une manipulation de masse qui est tellement importante, qui est tellement ancrée depuis des générations, qui a semé le doute de « mais si celui-là, il avait raison ». Oui, mais celui-là, ah, puis il a peur de « si je vais en prison ». Et puis si je vais. Regardez le nombre de salariés qui ont perdu leur emploi et qui ont été réintégrés dans l'entreprise parce qu'ils n'ont pas voulu se faire injecter. Regardez tout ça, observez tout ça. Et si on ne se soute pas, on sait qu'on va en laisser sur le carreau. Ce sera peut-être moi demain, c'est pas un problème. On sait qu'on va en laisser sur le carreau. Et moi, je ne veux pas que mes enfants et mes petits-enfants vivent ça. Je ne veux pas rester sur mon fauteuil, à ne rien faire, à ne pas agir, pour que mes petits-enfants et mes enfants, et c'est les vôtres, c'est ceux de tout le monde, vivent ça. Parce que je ne veux pas qu'ils gagnent, et je n'ai jamais voulu qu'ils gagnent. Aujourd'hui, on est plus nombreux. Et il y a une chose aussi qu'on n'est pas bien faire, c'est s'unir. Parce qu'on parle un peu les uns les autres, il y a des groupes qui s'unissent, c'est très bien, il y a des gens qui se réunissent. Mais s'unir vraiment, c'est de se parler, de s'échanger, d'écouter certaines personnes, de se liguer, d'avoir des leaderships, mais plusieurs, plein, et de vraiment s'unir et de vraiment y aller. J'entends, je vois des gens qui me disent « Ouais, non, mais là, je peux pas parce qu'en fait, en gros, j'ai sport ou je sais pas quoi. » Non, on n'a pas sport, on est en guerre. Je suis dure, hein, non, mes propos, je le sais, mais j'ai du passif derrière moi.
Ouais, non, mais merci beaucoup, Nadine. J'adore ton intervention. Et j'avoue que tu m'as un peu atterré parce que j'avais pas compris que Stéphane Blais nous avait quitté en fait. C'est un lanceur d'alerte en réalité, mais c'est aussi un artiste, hein, c'est un pianiste. Moi j'écoutais ses vidéos de temps en temps, mais il nous a quitté de façon non naturelle. C'est ce que tu sous-entends, c'est ça. Il était installé à l'étranger, je crois.
Il était en Suisse, apparemment chez des amis ou dans un hôtel. Il y a plusieurs versions, je ne sais rien, mais ses amis, Jim Léveilleur et, excuse-moi pour le nom, c'est Jovanovic, excuse-moi, je ne suis pas douée des fois pour retenir
certains noms. Oui, c'est ça,
c'est ça. Je ne me suis pas trompée. Ce monsieur-là aussi, ont l'air de dire qu'il était chez des amis, qu'il venait d'avoir une énième rupture avec sa petite amie et qu'il en avait marre de tout ça. Ce qu'on comprend, c'est très dur de supporter tout ça. Moi, je vous dis, ça fait des années, d'avoir fait une mort sociale. Je l'ai vécu 5 ans. Ça n'a choqué personne. 5 ans. Donc lui, il l'a vécu aussi, brillant pianiste, c'est un bon profil ce gars-là, qui a su faire une rédemption de plein de choses, il a su analyser, il a compris. Il est clair que quand on parle franchement dans un système tel qu'il est, il faut apprendre à parler intelligemment. Il faut apprendre, et c'est ça, les lanceurs d'alerte, il faut qu'ils fassent attention à ça. C'est qu'il y a une façon de dire les choses, et il y a surtout une façon de les attaquer différemment et de façon plus puissante et plus intelligente. C'est jamais en direct. Jamais en direct.
Oui, et effectivement.
Et ça, il ne l'a pas fait.
Stéphane Blais, il avait le travers d'attaquer un petit peu trop frontalement, notamment la franc-maçonnerie. Je ne sais pas s'il est mort de mort naturelle. Là, tu m'apprends, je ne savais pas.
Il a été défenestré ou il s'est défenestré. Donc, officiellement, on dit qu'il s'est défenestré pour le moment, à moins qu'il y ait une enquête en cours. Je ne sais pas, je n'ai vraiment aucune information. Moi, j'ai regardé sa photo, son profil. Il pouvait avoir un coup de blues pour dire « j'arrête avec la vie, j'en ai marre, je me coupe les veines ». Il pouvait faire ça. Mais passer à l'acte, j'ai du mal à le croire. Et même s'il était chez des amis, ça peut se faire très vite. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça très bien.
Donc, je dis et je répète à mon entourage, à ma famille, etc. Si je me suicide, c'est pas vrai. Je ne me suis pas suicidé. N'y croyez pas une seconde. Quoi qu'il arrive,
moi,
croyez pas une seconde.
Moi, c'est exactement pareil. Tout le monde le sait. J'ai pas du tout l'envie et j'ai jamais eu l'envie. Si j'ai déjà eu l'envie, faux, je me suis trompée. Mais je n'ai pas. Là, c'est même pas la peine. Là, depuis pas mal d'années, c'est pas du tout le cas. Je lance le même appel que tout au cas où. C'est une très bonne idée que tu l'aies fait. Et lui, je ne sais pas. Je peux pas te dire, mais j'ai des doutes. C'est tout ce que j'ai à dire.
Bon, voilà. On a basculé sur quelque chose d'assez dramatique. Mais bon, voilà. Bref, ce sont les imprévisibles du direct. Alors, vous voyez comme quoi le sujet de l'obéissance à l'autorité et finalement nourrir la matrice, ce sont des sujets qui sont intimement liés. Donc, on a déjà basculé dans notre deuxième sujet. Mais avant peut-être d'abandonner définitivement ce premier sujet, donc qui était l'expérience de 1000 grammes, pour le plaisir, je vais vous jouer et puis on reprendra des interventions. Il y a pas mal de gens qui lèvent la main maintenant. Je vais vous jouer un petit extrait de ce fabuleux film donc d'Henri Verneuil, donc I comme Icare. Et ça ne dure pas très longtemps. Perdu mon écran. Bon, alors, excusez-moi pour la manip. Alors, bon, bah, en attendant que je résolve mon problème technique, je ne sais pas, il a disparu de mon PC mystérieusement. On va donner la parole à Béatrice. Béatrice, vas-y, tu peux... Ah, non, alors attendez, autorisée à parler. Allez-y, Béatrice, vous pouvez activer votre micro. Pendant ce temps, je résous mon problème technique.
Wow. Je voulais revenir sur la participation aux manifestations. Je participe à des manifestations depuis juillet et je peux vous dire que nous sommes absolument conscients que nous ne ferons jamais bouger l'État de cette façon-là, puisque de toute façon, l'État obéit à des maîtres. Mais l'avantage de ces manifs, c'est bien de nous unir et de créer des réseaux. Vous m'entendez ?
Bonsoir Béatrice, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce que je disais tout à l'heure, et pour avoir des clients qui participent aussi à des manifestations, ils ont répondu les mêmes choses que vous, ils ont été dans le même sens que vous. Pour autant, souvent ont été déçus parce qu'apparemment, il y a des infiltrations aussi qui sont volontaires pour prendre du renseignement, pour diviser, pour etc., etc. Il faut être prudent sur ça. Mais moi, je trouve que c'est bien, ne serait-ce que pour se voir, puisqu'on nous empêche de nous voir, pour rencontrer des nouvelles têtes et ainsi de suite. Voilà, c'est une bonne chose. Mais pendant que vous êtes là, vous n'agissez pas pour autre chose qui, à mon sens, est plus productif. Ça, c'est mon opinion.
On peut agir aussi ailleurs en même temps. L'un n'empêche pas l'autre. Et puis aussi, je voulais revenir aussi sur l'histoire des corps physiques qui deviennent un matériel de laboratoire. Mais il y a déjà longtemps, puisque je crois savoir que si on ne l'annonce pas, on ne l'écrit pas explicitement, quand vous mourrez, votre corps peut être utilisé pour récupérer vos organes.
Exact.
Moi, je ne pourrais pas vous en dire plus sur ce sujet-là, mais voilà, vous avez sans doute raison.
C'est vrai, il y a des gens, s'ils signent un document, ils deviennent, il y a un don d'organes. Maintenant, à mon avis, c'est un autre sujet. Comment ?
Non, c'est le contraire. Si vous ne signez pas de document disant que vous ne voulez pas qu'on touche à votre corps, eh bien actuellement, si vous mourrez maintenant, on pourra l'utiliser pour récupérer vos organes.
Oui, pardon, c'est ma dyslexie, c'est ce que je voulais dire. Merci Béatrice, je suis désolée. Merci.
Ok, mais merci Béatrice. En attendant, j'ai résolu mon problème technique et allons-y pour ce petit extrait donc du film I comme Icare avec Yves Montand, un film qui m'a traumatisé en tant que jeune Jedi. Allez, c'est parti.
Mot suivant, violent.
Violent, attendez, ça je le sais. Souffle violent.
Faux. La réponse était vent. Vent violent. 30 volts. Réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Si vous croyez que ça m'amuse, moi, de vous envoyer des décharges. Allez. Mot suivant, frais.
Frais. Attendez, ça n'est pas poisson ?
Vous croyez sérieusement que ces chocs électriques ont aidé M. Rivoli à améliorer sa mémoire ? La mémoire de M. Rivoli ne présente ici aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de M. Despol, sa soumission à l'autorité. L'autorité pour M. Despol, c'est le cadre de cette université, le professeur Flavius, moi-même, et nos blouses blanches qui sont les symboles de cette autorité. Nous venons de lui imposer un code de punition à un flic victime qui ne lui a rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner ? Tout le problème est là.
Mot suivant, jaune.
Citron.
Bien, très bien. Oui, c'était citron. Allons-y. Mot suivant, grillé.
Pain grillé.
Mais non, c'est faux! C'était poisson, poisson grillé! 165 volts.
Arrêtez. Je refuse de continuer. Laissez-moi partir.
Mais enfin, il va tout de même aller jusqu'à 450 volts.
Je ne sais pas. Voyez-vous, il est évident qu'à partir d'un certain moment, M. Despaul va devoir affronter un problème. D'un côté, sa soumission à l'autorité, exécuter la mission qui lui a été confiée. De l'autre, sa répugnance à faire souffrir sa victime. Despaul va être progressivement secoué par un conflit intérieur presque insoutenable. Pour se tirer de cette situation, il devra rompre avec l'autorité et désobéir. C'est l'instant de cette rupture que nous étudions.
Et voilà. Alors Nadine, une réaction à cet extrait du film I comme Icare, donc d'Henri Verneuil.
Ce qu'on peut compléter par rapport à l'expérience de Milgram, c'est que là, celui qui appuie sur les volts, on lui donne du pouvoir, il se sent investi d'un pouvoir, reproche à l'autre de ne pas bien répondre en disant que ça ne l'amuse pas d'appuyer sur le bouton, pourtant il le fait quand même. Donc là, cette notion de pouvoir, de victimiser l'autre, c'est de ta faute si j'appuie, de reprocher à l'autre, de reporter sur l'autre. On m'a dit de faire et j'écoute l'autorité, mais c'est toi qui réponds mal, donc c'est ta faute. Alors là, si c'est la pure manipulation et en plus une espèce de notion de pouvoir. Voilà, pour ajouter plus.
Et alors, jusqu'à quand nos médecins vont-ils continuer à obéir à cet ordre absurde et imbécile qui ne consiste pas à envoyer une décharge, mais qui consiste à injecter un produit inconnu justement à toute la population française? C'est la question qu'on peut se poser. Alors certes, ils ont l'épée de Damoclès de l'ordre des médecins au-dessus d'eux, mais ils obéissent bien à un ordre absurde et imbécile.
Tous les médecins n'obéissent pas. J'ai des clients qui n'obéissent pas, premièrement, qui pourraient le faire et qui ne le font pas. Deuxièmement, il y a des médecins qui ne font plus d'injection parce qu'ils ont vu des retours négatifs, hein, des résultats d'effets secondaires avec des pathologies assez lourdes ou carrément des décès, et qu'ils ne veulent plus être dans cette responsabilité-là. Et puis, pour les autres, voilà, ils continuent, mais je ne suis pas sûre qu'ils vont avoir des facilités à recruter, parce que quand on regarde le nombre de populations à Picouzet, il n'y a pas assez de médecins pour ça. Hein. Là, j'ai vu encore tout à l'heure un de mes contacts sur LinkedIn qui a dit « ferme mon cabinet parce que moi, je refuse, c'est terminé, basta. Et puis, ce n'est pas grave, je fais autre chose, mais j'arrête. Je ne veux pas être contre quelque chose qui détruit l'humanité. » C'est ce qu'il avait écrit dans son poste et on l'a tous félicité. Et je pense qu'on est dans la bascule cette fois-ci. Je pense qu'on est dans la bascule. Alors, c'est peut-être pas important, c'est peut-être pas significatif, c'est difficile, hein, de toute façon, parce que nous ne disposons pas d'assez d'éléments pour pouvoir y répondre. Les chiffres nous sont cachés ou sont tronqués. Les chiffres, on nous raconte tellement de tout et son contraire que c'est pas évident. Je fais partie aussi des gens qui n'ont pas toujours le temps de pouvoir m'instruire suffisamment. Donc, c'est pas évident. Et puis, il faut être sur les bons canaux. Donc, est-ce que c'est ce canal-là? Est-ce que c'est celui-ci? Etc., etc. Donc, c'est franchement pas évident. Mais moi, le signe de nous enquiner, ce que disait le squatteur de l'Élysée, pour rester poli, moi, ça m'a beaucoup. C'est un bon signe pour moi. C'est un très, très bon signe.
Oui. Alors, il y a Christelle qui avait levé la main. Désolée, Christelle, on t'a laissé longtemps sans pouvoir intervenir. Vas-y, si tu le souhaites maintenant. Si c'est toujours d'actualité, tu peux activer ton micro.
Oui, bonsoir. Alors du coup, c'est un petit peu décalé par rapport à la question que j'avais en tête. C'est pas grave, j'ai quand même la posée. Ça concernait en fait le vaccin. Et j'aurais aimé avoir l'avis de Nadine sur les questions que je me posais. En fait, on est tous conscients, je pense, plus ou moins, que c'est un enjeu vibratoire. Et je voulais savoir ce qu'elle pensait sur le fait que ça pourrait, sur l'éventualité que en fait, le vaccin couperait de la connexion et agirait sur l'ADN, en empêchant justement les brins d'ADN qui devraient se connecter dans les années à venir de s'activer. Et deuxièmement, je voulais savoir ce qu'elle pensait, elle, au sujet du graphène, parce que j'ai entendu un jour cette éventualité, cette possibilité, et ça m'a vraiment questionnée au sujet que ça serait le graphène, qui est a priori un matériau qui n'est pas du tout terrestre, qui est complètement inventé. Ce serait un matériau biologique pour pouvoir permettre à des entités de venir infiltrer nos corps biologiques. Donc voilà, j'aimerais bien avoir son avis à ce sujet.
Bonsoir Christelle. Alors merci beaucoup pour ces questions. Juste que je ne suis pas médecin, donc pour moi ça va être difficile de répondre à ces questions-là. De mes instructions, c'est-à-dire tout ce sur quoi je me suis instruit sur des sujets plutôt sérieux, il semblerait en effet qu'il y ait une modification ADN. Il semblerait, je dis bien, parce que je réitère, ce n'est pas mon domaine. Je suis sur les neurosciences, mais pas sur ce genre de débat, et sur le comportemental. Et deuxièmement, la partie graphène, je rejoins aussi vos propos dans ma connaissance et ma lecture que j'en ai. Est-ce que c'est extraterrestre? Je ne sais pas, en revanche. Par contre, ça semblerait être quelque chose d'assez dangereux et puissant. Mais ce que je vous dis, si vous êtes sur mon mur VK, j'ai une vidéo qui est offerte, qui est vraiment bien. Je pourrais l'envoyer à Hervé pour la diffuser par la suite, où vraiment ces scientifiques, on voit qu'ils ont très, très travaillé sur la composition de cette injection, mais surtout les connexions, et même jusqu'à la 5G et ainsi de suite. Et c'est ça qui est intelligent. Ça, c'est du vrai travail de recherche. Moi, c'est comme ça que j'aime travailler, et c'est comme ça que j'aime voir du travail de chercheur. Et ça, c'est quelque chose de clair. Donc, elle est sous-titrée en français, hein, cette vidéo. Et le graphène est le liant. Il est vraiment le liant de toutes ces nanoparticules, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, qui sont tant pour la connexion à tout ce qui est outils connectés de type 5G, applications, des choses comme ça, que tout ce qui est lié à nos propriétés de composition, et notamment les modifications du DNA, de l'ADN. Donc ça, c'est des choses qu'il faut... fais-moi penser, Hervé, de l'envoyer pour la mettre sur le groupe après, ou ceux qui sont sur mon VK. Je l'ai postée il y a quelques jours, donc vous pourriez la retrouver. C'est vraiment une vidéo qui, à mon sens, qui est très, très beau travail, un excellent travail, et qui recouperait ce que l'on pense tous. Mais je ne peux pas répondre précisément à votre question, Christelle, j'en suis navrée, parce que je ne reste que sur mon domaine de connaissance.
Oui, oui, je comprends. Non, c'était plus par rapport à vos intuitions.
Okay. Alors, mes intuitions confirment ce que je ressens, mais je préfère rester à une démarche scientifique sur ces choses-là, parce que si vous voulez, les intuitions et mon instinct, c'est une chose, mais j'ai un travail qui est très cartésien, très technique, et je préfère rester, c'est trop tendu, c'est trop compliqué, il y a trop de désinformation, d'informations, de tout ce qu'on veut, et de non-information. Il faut être prudent sur tout ce qu'on avance. Et quand je dis quelque chose, c'est que j'ai suffisamment de recul, ou je dis j'en ai pas assez, mais je peux quand même avancer certains éléments. Et là où ça n'est pas mode bench, je préfère me taire.
Non, je comprends tout à fait.
Merci Christelle.
Pas de problème, merci beaucoup.
Juste un petit ajout, Christelle, je crois percevoir, mais peut-être que je me trompe, une certaine inquiétude dans votre question. Alors, je vais me remettre en muet. Non, mais c'est, en fait, nous, si vous voulez, on croit un petit peu au Père Noël. Hein, vous connaissez la communauté des Jedi. Nous, on est convaincus que après ce point de bascule, des technologies interdites nous seront mises à disposition, comme par exemple les medbeds, vous avez dû en entendre parler. Ils ne sont pas disponibles à la population de surface actuellement, mais ils le seront très vraisemblablement après l'événement. Et nous pensons que la réversibilité sera totale par rapport à tout ce qui aura pu être induit par le vaccin, que ce soit nanoparticules ou les effets sur l'ADN. Nous pensons que les medbeds seront en capacité de nous régénérer au niveau cellulaire. Voilà, donc histoire de se réconforter en se disant qu'il existe des technologies qui nous sont interdites aujourd'hui, qui devraient permettre de retrouver une réversibilité totale par rapport à tous les dégâts du vaccin. Alors, il y avait Denis qui avait levé la main. Denis, tu peux activer ton micro si tu souhaites faire une intervention, poser une question à Nadine. Non? Alors, peut-être qu'il s'est lassé. Alors, sinon, nous avons Pavlina. Ah oui, vas-y, Denis.
Oui, alors bonsoir. Oui, moi, j'ai vu sur, comment dire, l'intervention de Renard Fulmic qui est en train de mener un combat justement contre tout ça. Et je ne sais pas si Nadine a vu ses résultats avec le docteur Wolfgang von Darg. Nouvelle découverte suffisante pour démanteler toute l'industrie vaccin Covid. Alors, il dit qu'on joue à la roulette russe. On a une chance sur 200 d'être empoisonné par une injection. 5% des injections sont mortelles. Il a trouvé la faille, justement, avec les tableaux qu'il a dit qu'il gardait sous la main, parce qu'il ne faut pas les laisser partir. Il a des preuves. Donc, ça s'accumule de plus en plus. Quoi. Mais c'est vrai que une chance sur 200 d'être empoisonné par l'injection. 5% des injections sont mortelles. Voilà ce qu'ils disent. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo là-dessus. Je ne sais pas.
Bonsoir, Denis. Alors, je suis le docteur Fulmich. Docteur, je ne sais plus s'il est docteur. Oui, je crois qu'il est docteur. En tout cas, ces actions avec intérêt, c'est un très bon profil. J'espère qu'il va réussir. En tout cas, je crois en sa conviction et en son travail. J'ai suivi ce que vous dites. Je l'ai vraiment suivi, je l'ai effleuré. Je réitère que je manque un petit peu de temps en ce moment pour un peu plus m'instruire sur ces sujets-là. Alors, on sait que de toute façon, dès qu'on lance une injection, enfin un vaccin, un vrai vaccin, il y a toujours des effets placebo à l'origine parce que quand ils ont été validés sur les phases de test, il y a toujours des effets placebo qui sont sortis. C'est courant pour un vaccin. Donc là, il ne s'agit pas il s'agit d'une injection ou d'une piqûre, vous l'appelez comme vous voulez, qui n'a pas passé la phase 2, qui est en phase 3, qui se terminera selon les labos, on va dire en 2023, globalement. Et qui déjà font beaucoup de contestations au niveau des tests. Ça, je l'ai lu, je l'ai vu, et ce qui semble évident au regard de tous les résultats que l'on commence à obtenir. Très difficile à obtenir les chiffres parce que beaucoup de pays ne disent pas les vrais chiffres. Il est interdit en France de dire que vous êtes décédé d'une injection. Des effets secondaires, les médecins ont le droit de dire que, par exemple, vous avez une thrombose ou un AVC ou des choses claires, mais ils ne peuvent pas en dire plus. Donc, les gens ils disent bah oui, il y a un taux de thrombose qui est plus important. On ose faire de la publicité pour dire que même les AVC et tout ce qui est cardioptique peut aussi venir sur les plus jeunes profils, histoire de dire que si les vaccins tuent les petits, c'est pas grave, c'est normal quoi. C'est encore une forme de manipulation dans l'acceptation. On est encore autour de 1000 grammes. Hein. Donc globalement, c'est pas des choses qui me surprennent dans ces chiffres-là. Par contre, moi je pense que cette injection est mortelle à court ou moyen terme. Je suis assez d'accord avec le professeur Montagnier. Je suis assez d'accord avec d'autres scientifiques qui sont crédibles, qui sont sérieux, quand ils disent que c'est quelque chose qui, à terme, peut créer, pas forcément directement, et là où ça va créer des vraies maladies graves, c'est qu'on va arriver sur quelque chose qui ressemble au sida, c'est-à-dire une perte d'immunité. Donc ça veut dire que vous allez attraper tout et n'importe quoi et qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus vous défendre. Et c'est une des maladies plus fortes que l'autre sur laquelle vous aurez encore moins de possibilités de vous soigner qui l'emportera. C'est là-dessus surtout que ça va se jouer visiblement. Une discussion qu'on avait avec mon fils, et il a raison, et d'autres personnes. Et c'est vrai, et c'est l'incidence du manque immunitaire. Est-ce que beaucoup de scientifiques avancent? Et ça, c'est juste. C'est mathématiquement, et c'est là-dessus qu'il faut développer l'analyse. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de se soigner d'une manière ou d'une autre pour les personnes qui ont des picouses et qui ont regretté de s'être fait manipuler, de l'avoir eu. Certains l'ont fait vraiment pour s'en bien faire, pour garder leur travail. Il ne faut pas les blâmer. Bon, celui qui fait ça juste pour aller au resto, bon, bah là je dis que c'est quand même un peu... Enfin, c'est comme, faut penser à son corps, quoi. C'est pas un jeu. Son corps, son âme, sa conscience, etc. Mais il y a ceux qui ne savaient pas, qui savent pas manipuler Internet, qui savent pas où chercher l'information. Et je pense beaucoup aux personnes âgées dans ce cas-là, parce qu'ils sont pas nés avec un arrobase hein, ou un i d'Internet. Et il y a ceux qui n'ont pas le temps, comme je disais tout à l'heure, qui se doutent ou qui savent pas, et puis qui suivent plus ou moins parce que plus par négligence ou se dire bah, si tout le monde le fait, je le fais, sans réfléchir, etc. Je ne dis pas que c'est bien, mais on ne peut pas se permettre non plus de les juger. D'abord, on n'a à juger personne. Et puis, ceux qui pensaient bien faire pour soi-disant du patriotisme, pour vouloir être débarrassés de cela et mieux vivre de cette grippette, hein, parce que je rappelle que c'est quand même qu'une grippette, il ne faut pas oublier une chose. Scientifiquement, le SARS-CoV-2 n'a pas, la souche n'a pas été isolée et n'a pas été travaillée comme n'importe quelle souche qui apparaît pour que les gouvernements ou les chercheurs disent derrière, ou toutes les cellules de recherche ou tout ce qui est lié là-dessus disent derrière, bon voilà, on sait exactement à ce qu'on a à faire, on sait exactement ce qui peut se passer et donc on sait ce qu'il faut mettre en place. Ça a été fait sur des dossiers juridiques. Pour des cas de familles qui ont perdu des proches ou des mutilés de cette injection ou des décédés sous Covid alors qu'en fait ils sont décédés parce qu'il fallait qu'ils décèdent, enfin tout ce qui est dossier juridique, ça a été fait par des laboratoires extérieurs. Faut bien comprendre ça, c'est que ça ne repose sur rien, toutes les lois, tout ça, ça repose sur rien. C'est du Jacques n'a pas dit, en fait. Donc on ne peut pas on peut pas. Ah zut, c'est moi qui perds le fil maintenant. Tu vois, Hervé, communicatif. Je te dis, d'habitude, c'est moi.
dans l'étude.
Comment?
Moi, Nadine, dans l'étude qu'il a sortie là avec ce docteur, le réseau fumique, le docteur dit exactement les choses comme ça. C'est que ils ont remarqué, ça peut démolir justement les Covax. C'est-à-dire qu'ils ont, ils sortent à tour de rôle, ils sortent des, ils vont voir que pendant une période donnée, il y a plein de morts, et dans une période, il n'y a plus de morts. Et ils se donnent, ils donnent, par exemple, c'est Pfizer qui va sortir le truc, donc il y a des morts sur l'injection de Pfizer. Ils arrêtent et ça recommence sur un autre qui va être Moderna, par exemple. Et il y a des morts à un moment donné qui n'arrêtent pas. Et c'est vraiment très important.
C'est la roulette russe.
Voilà, mais ils sont en train justement de tester celui qui va faire le plus de mal. Et ils mettront, quand ils vont avoir testé celui qui aura fait le plus de mal, et ben c'est celui-là qu'ils mettront pour injecter pour faire mourir plus de gens. Donc moi, je pourrais
vous envoyer... C'est leur but. C'est leur but, Hervé. De toute façon, on a bien compris, leur but, c'est de nous détruire et de faire le jouet et puis de rajouter tout ce qui est intelligence artificielle, des armées complètes d'intelligence artificielle, des robots qui vont gérer ceci et cela. Ça, on l'a bien compris, c'est leur but. Mais s'il y a une résistance, s'ils sentent une résistance humaine, il faut bien à un moment donné qu'ils fassent autre chose pour que cette résistance, elle tombe. Et la seule résistance qu'ils n'ont pas captée, c'est ceux qui ont refusé de se faire injecter. C'est cette résistance-là. Mais la deuxième qu'ils ont encore moins captée, c'est ceux qui ne veulent plus se faire injecter. C'est alors, là où on est fort. C'est là.
Ouais. Je précise quand même que, enfin voilà, on a un petit point de divergence là-dessus. Enfin, encore que c'est quand même relativement proche, mais c'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à considérer que le vaccin, c'est un contrôle vibratoire. C'est pas quelque chose qui est fait pour nous exterminer, mais c'est quelque chose qui est fait effectivement pour nous contrôler, et notamment sur le plan vibratoire, parce que c'est une des clés de la libération planétaire. Alors, ceci étant dit, par rapport à, je voudrais juste repréciser un point par rapport à Rainer Fulmich, puisque c'était quand même le point de départ de l'échange avec Denis. Tu nous as dit tout à l'heure, Nadine, c'est un bon profil, mais moi je me souviens de ce que tu as dit dans une autre émission, et ça vaut peut-être le coup de le répéter, c'est que Rainer Fulmich, on peut compter sur lui. C'est-à-dire, je crois que tu as utilisé l'expression « c'est un vrai lion ».
Il ira jusqu'au bout.
C'est quelqu'un qui va se battre pour nous, il ira jusqu'au bout, et c'est pas un gatekeeper, c'est pas une opposition contrôlée, c'est pas quelqu'un qui fait semblant. Il ira jusqu'au bout, et c'est peut-être lui qui initialisera d'ailleurs le Nuremberg 2.0, qui sait.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi de préciser. Pardon, Denis.
Moi, je l'adore, hein. C'est vraiment un type, moi je sens que c'est quelqu'un de formidable, hein. Je le suis depuis longtemps, là maintenant, je trouve que c'est. Il n'y a pas à se tromper sur lui, quoi, je crois. Hein.
On est d'accord.
Voilà. Et il y a des choses à faire suivre, peut-être de lui, justement, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. Moi, j'ai beaucoup de trucs que j'ai réunis sur lui, je pense qu'il faudrait les faire suivre. Hein. C'est vachement important, quoi. Pour
je pense que c'est une bonne idée, en effet. Parce qu'il vaut mieux mettre de l'énergie sur ce genre de personne qui peut être inspirante, même si on commet, même si on fait d'autres actions, que sur certaines personnes qui sont plus ou moins des heures d'alerte et qui font beaucoup de bruit, en effet, mais qui font du bruit.
Alors, Bah, merci, merci.
Je vais revenir sur un truc, Hervé. Donc, ce n'est pas qu'on a un point de divergence, c'est qu'en fait, pour moi, il y a les deux. Il y a la partie et vibratoire et humaine. Pour moi, il y a les deux. Parce que notre corps, médicalement, quand on écoute des gens comme Montagnier ou d'autres personnes, il ne va pas résister facilement à ce genre de choses. Et il y a aussi le fait de diminuer terriblement vibratoirement pour pouvoir qu'eux, ils aient leur potentiel d'exploser et d'agir autant qu'ils veulent. Mais nous qui ne sommes pas injectés, même si on élève beaucoup notre niveau vibratoire, il faut qu'on fasse attention à ne pas l'élever en contrepartie de ce qu'eux, ils font. Ce qui se passe beaucoup aujourd'hui. Je vois beaucoup trop d'échanges de choses qui... autant tu vois, Rainer Fulmich, ça c'est intéressant parce qu'on voit une progression de travail, parce que là on va vers une libération, on va vers quelque chose qu'on construit, on rétablit des vérités, etc., etc. Ça pour moi, ça c'est pas le contre-pouvoir de ce qui se passe aujourd'hui, c'est on fait évoluer les choses et on instruit là-dessus. Mais de nous dire encore aujourd'hui que les complotistes l'année dernière, ils avaient raison, on le sait, c'est bon, on le sait, on a assez de résultats. De nous dire que le vaccin, il y a des effets secondaires de ceci, cela, et de poster ça tous les jours à l'arigot toute la journée, on le sait, qu'on mette à la limite un tableau récapitulatif de temps à autre, ça suffit. Je ne vois pas grand-chose qui dise qu'est-ce qu'on fait vraiment pour demain, qu'est-ce qu'il construit, c'est ce que fait Rainer par exemple Fulmich, c'est ce que fait Rainer Fulmich, ce que font d'autres personnes, chacun à leur façon. J'ai des gens qui m'écrivent, nous on essaye de créer tel village, nous on essaye de réunir tel genre, ça ce sont des actions. Ça, c'est des choses pour demain. C'est des choses. Moi, je travaille sur l'humain. Moi, mon seul truc, c'est nettoyer au maximum les gens pour demain, pour aujourd'hui et demain. Ça, c'est ce que je fais tous les jours. Donc, chacun peut faire apporter sa pierre à son édifice, tout ça. Cette énergie-là, si on la met sur ce genre de choses, des actions d'aujourd'hui et demain, c'est une énergie qu'on leur enlève à eux. Parce qu'on ne donne pas d'importance à ce qu'ils font. Il y a eu tout un tas de trucs avant Noël. Alors, est-ce qu'ils vont confiner? Est-ce qu'ils vont faire le couvre-feu? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Alors, tout le monde flippait. Ouais, le 3 janvier, alors déjà, le 31 décembre, ça a commencé, mais le 3 janvier, j'avais déjà des clients qui étaient vraiment, mais en pas bien du tout, parce que il y avait le truc du pass vaccinal, machin, etc. Je leur ai expliqué et j'ai remonté, puis ils ont dit, bah oui, c'est vrai. Je dis, voilà, on remonte la pente, on fait ci, on fait ça, etc. Je leur ai expliqué, mais ils étaient pas bien, ils étaient impactés. Et ça fait le jeu de ces gens-là. Et vibratoirement, c'est juste ce qu'ils attendent. Donc, et pourtant, on n'est pas picousés, nous. C'est juste ce qu'il ne faut pas faire, à mon sens.
Oui, alors justement, un point par rapport à ça, parce qu'on tombe tous dans le piège. Autant Jedi que nous sommes, on tombe tous dans le piège. C'est la loi de manifestation. C'est-à-dire que le gouvernement annonce quelque chose, ou l'annonce pas d'ailleurs, mais fait courir un bruit de quelque chose. Et finalement, nous, on commence à se dire, ah bah tiens, voilà, ça y est, ils vont nous reconfiner. Ah bah tiens, ça y est, ils vont mettre voilà, le passeport vaccinal, etc., etc. Et en fait, le simple fait qu'on, quelque part, qu'on en parle, qu'on admette cette réalité qui peut potentiellement nous être imposée, on rentre déjà dans la loi de manifestation parce qu'on commence déjà un petit peu, quelque part, à l'accepter. Et ça, en fait, c'est un jeu qui est très, très subtil, qui est joué par les autorités, dont je pense qu'on en a très peu conscience. C'est-à-dire que c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, c'est pas parce que ils nous disent tiens, bah, demain on va entériner la loi sur le passeport vaccinal. Donc ça y est, tout le monde se dit tout est joué. En fait, non. Au niveau de la conscience, tout n'est pas joué. Et c'est peut-être dommage aussi que on donne un petit peu trop. Même si on est dans la résistance, même si on dit moi de toute façon je me ferai pas picouser quoi qu'il arrive, on donne peut-être un petit peu trop vite notre acceptation à cette situation. Et peut-être que si on était en résistance par rapport à ça, alors je sais pas, peut-être tu vas nous donner tes recettes d'ailleurs, Maître Yoda. Qu'est-ce qu'il faudrait faire nous en tant qu'apprenti Padawan, que devrions-nous faire pour ne plus faire le jeu de la matrice justement? On attend tes conseils.
Alors, c'est un vrai travail sur soi. C'est pas forcément des conseils, c'est un vrai travail sur soi parce que ça dépend du profil, ça dépend de votre passif, ça dépend de ce qui vous a impacté dans votre vie, ça dépend d'un ensemble de choses. Dis-vous, vous tous, hein, c'est pas que toi, Hervé, c'est tout le monde, en fait. C'est que, en fonction, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme dans la fin de la manipulation, ils vont appuyer là où ça fait mal. Donc, il y en a un, c'est je peux plus faire mon sport, l'autre, je peux plus aller au voyage. Bon, bah, c'est pareil dans ne plus être impacté sur ça. C'est de se dire, voilà, si moi, on confine demain, je ne peux pas aller voir ma grand-mère, par exemple. Si moi, on fait le pass vaccinal, je ne peux plus faire mes courses ou je ne sais pas quoi. Bon, c'est par exemple ces choses-là. Mais si tu les feras tes courses, bien sûr que tu les feras tes courses. Ils ne vont pas laisser 36 millions de personnes crever de faim. Parce qu'ils savent très bien que ce sera la révolution. Il faut réfléchir autrement, il faut aller plus loin. Mais il faut faire un travail en soi, un vrai travail en soi, parce que c'est les peurs et les freins qui sont sous-jacentes, qui n'ont pas été assez travaillées, le manque de confiance en soi, qui n'ont pas été assez travaillées, qui fait ressurgir tout ça. Et avec une accumulation de fatigue psychologique, une usure psychologique depuis ce temps, plus tous les traumatismes, les problèmes de tous les jours, etc., c'est ça qui met tout en avant et qui fait qu'à un moment donné, il y a une fêlure, une craquelure, c'est plus joli quand même dans ce sens-là, qui va faire qu'on s'engouffre dans le truc de trop, en fait, qui va être ça ou autre chose, genre le passe-vax ou non. Et il faut, plus vous êtes centré, plus vous êtes, vous avez bien travaillé en vous tout ce qui vaut, et c'est pas un travail qui se fait seul, et plus vous êtes détaché de ça, il n'y a aucun impact. Moi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est je sais que c'est un jeu. Je l'ai intégré, je l'ai compris. Et je gère la panique de mes clients et ça ne m'impacte pas. Et je le gère. Je prends ça des fois toute la journée. Et je le gère. Ce n'est pas grave. Ça fait partie de mon métier aussi. Ça ne m'impacte pas. Et je leur explique pourquoi. Et je leur ai dit, faut comprendre déjà une chose basique, c'est qu'ils sont nettement moins nombreux que nous. C'est en agissant comme ça, vous leur laissez le pouvoir qu'ils croient avoir. Mais ils n'ont pas de pouvoir, ils sont moins nombreux que nous. Ils gouvernent quoi? Est-ce que la République française, c'est un État ou c'est une société déjà, pour commencer? Quand je vois dissolution de la personne qui squatte l'Élysée, qui n'y est pas d'ailleurs. Mais dissolution de quoi? Puisque apparemment, la République française, c'est une société. Donc là, c'est une démission. Mais moi, je n'ai pas signé un contrat de travail ou un contrat en tant que client, fournisseur avec eux. Je n'ai pas signé ça. Donc, qu'est-ce qu'il veut me faire? Ben, il ne peut rien me faire. Toutes les lois sont illégales, tous les trucs sont illégaux, tout est illégaux là-dessus. Bon, qu'est-ce que tu veux me faire? Tu veux me mettre une amende de ceci, ça? Mettre une amende de quoi? Sur quelle base? Sur quels critères? Un jour, il y a un gendarme qui me dit, madame, il faut mettre le masque, il ne faut pas mettre la visière. J'ai dit, ah bon, d'accord, pourquoi? Ben, il me dit, vous n'êtes pas au courant de Covid et tout? Je dis, non, je ne suis pas vraiment au courant, non, pas vraiment. Je lui pouvais me sortir le texte scientifique qui me montre l'isolation de la souche SARS-CoV-2 pour justifier qu'elle existe déjà. Alors là, ils font des gros yeux, hein, parce que tu dis ça, ils comprennent, ils ne sont pas tous à une approche scientifique. Ben, ils m'ont dit, mais vous me dites quoi? Alors, je leur explique ce que je vous ai un peu expliqué tout à l'heure, mais plus détaillé. Je leur ai dit, donc, comme on n'a pas ça, sur quoi voulez-vous faire des lois? Alors, c'était trop compliqué pour eux, ils sont partis. Mais c'est vrai, mais c'est ça. Il faut prendre des essences. Alors, il y en a qui ne vont pas discuter, il y en a qui vont accepter, on a tout type de profil. Puis c'est vrai que mon métier favorise et facilite de savoir comment nous communiquer en fonction de X et Y situations. Je l'entends. Ce qui n'empêche pas à des personnes d'apprendre à faire ça aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que soit on alimente la matrice et on rentre dans ce jeu de la matrice, soit on se centre sur soi et on travaille vraiment sur soi pour que rien de tout ça nous impacte, ou le moins possible. Le 100% n'existe pas, il y aura toujours, même pour moi, il y a toujours un moment, ça peut flancher un petit peu, mais il faut vite repartir de suite, ça ne dure que quelques secondes. C'est ça le truc, c'est bien intégrer l'environnement, le contexte, et comment vous vous y inscrivez dedans, et c'est votre choix à tous. C'est vous qui décidez. Est-ce que ça m'impacte? Est-ce que mes peurs ressurgissent? Est-ce que mes manques de confiance? Est-ce que quand ma mère disait ceci, est-ce que mon père disait cela, mon patron me disait cela, mon ex-mari me disait cela? C'est ça qui revient et qui fait que du coup j'ai peur. Ou est-ce que j'ai peur pour un tel, ou ainsi de suite? Ou est-ce que je me dis, de toute façon, on verra bien. Ils peuvent jouer, ils peuvent faire, on sait que c'est un jeu. Ben viens, on verra après. Regardez depuis 2 ans tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a eu vraiment de fait? Pas grand-chose. Alors oui, ils nous ont mis la vaccination, mais elle n'est pas obligatoire.
Ah, mais on s'en sort bien, hein. Je suis tout à fait d'accord, on s'en sort plutôt pas mal. On aurait pu être plus mauvais que ça, même si nous aussi, on a tendance à considérer que cette pandémie aurait pu être évitée si on avait été meilleur que cela. Mais finalement, on a une ligne de temps qui n'est pas si dégueulasse que ça, effectivement. Et par rapport à ce que tu dis, par rapport au jeu, là, enfin, c'est... Il y a une personne sur Internet que j'aime beaucoup là, qui parle beaucoup du mouvement One Nation. Donc, Elle a dit depuis le début, je ne veux pas jouer au jeu du Monopoly. Je suis hors jeu. Et c'est ça en fait. Hein, ils nous forcent à faire un jeu, leur jeu. Il y a aussi les Parasites, là, un groupe super qui avait fait une vidéo sur le jeu de société. Une vidéo excellente. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mais c'est ça. On est véritablement embarqué malgré nous dans un jeu. Et ce qu'il faut, c'est s'extraire de cela et de dire moi non, moi je ne joue pas au jeu, donc je n'obéis pas à vos règles. Si je ne suis pas dans le jeu, je n'obéis plus à vos règles.
Voilà, alors, c'est exactement la matrice.
C'est la matrice. Mélanie, allez-y, vous pouvez prendre la parole. Excusez-nous.
Pas de souci. Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole. Pour continuer sur ce sujet, je pense aussi que c'est important de se protéger dans le sens où il faut aussi arrêter de regarder constamment les informations négatives. Toute la pression qu'on peut avoir autour, essayer de se former comme une petite bulle autour de nous pour essayer de se garder dans des vibrations assez élevées et de faire des choses qui nous permettent de nous sentir bien, de nous sentir apaisés, comme ça peut être de la méditation, ça peut être faire du yoga. Il n'y a pas besoin d'aller dans une salle de sport pour pratiquer une activité et se faire du bien. Et puis voilà, essayer de déconnecter un peu avec l'ambiance générale. Pour se faire du bien et s'écouter, surtout. Et par rapport à la loi de manifestation dont tu parlais, Hervé, c'est vrai que parfois on peut avoir des pensées un peu négatives, mais ça veut dire. Enfin, c'est pas. Comment dire? C'est humain. On a tous des pensées, des fois négatives, mais on peut aussi les stopper et les annuler. Enfin, par exemple, moi, j'ai un exercice que j'utilise, en lequel je crois, évidemment, il faut y croire, parce que sinon, ça ne marche pas. Quand j'ai quelque chose de négatif en tête, je me dis non, stop, j'annule, je supprime cette pensée, maintenant et pour toujours, et je pense à quelque chose, je la remplace par quelque chose de négatif, de positif, pardon. C'est voilà, juste une petite technique, si ça me peut aider certaines personnes, voilà.
Bonsoir Mélanie, je trouve ça très bien et elle fonctionne très bien cette technique pour que je l'utilise aussi un peu comme vous. Arrêtez la télé, tout ça, tout ce qui est négatif, tout ce qui est polluant autour de soi. C'est tellement évident pour des gens éveillés, je n'arrive même pas à comprendre qu'ils regardent encore ces choses-là. Merci de le repréciser, c'est tellement évident. Par contre, il y a juste une chose qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont traumatisés ou qui sont dans un environnement dans lequel ils sont obligés de composer avec une personne qui n'est pas dans ce sens-là ou qui ont des passifs assez lourds, la technique que vous dites de remplacer par quelque chose de positif, ils ne peuvent pas. C'est malheureusement, ils ne peuvent pas. Il faut vraiment qu'ils fassent un travail sur eux. Il faut vraiment les nettoyer. C'est un mot que j'utilise très souvent, de tout cela, pour pouvoir mieux les révéler et qu'ils se développent et qu'ils se sortent de cela. Et après, ils ne sont plus du tout impactés. Donc, c'est valable pour des gens qui sont les plus centrés. Et ça, je suis d'accord avec vous. Je l'utilise aussi, ça peut m'arriver aussi. Je fais un peu comme vous. Et il y a d'autres choses. Moi, je vais beaucoup marcher dans la nature. J'adore le contact de la nature et des animaux. Même si je ne les vois pas, je vois leurs traces ou je les entends. Et je suis la fin du monde, là, pour moi. C'est vraiment le truc qui me fait le plus évacuer. Et pour ceux qui aiment ça, bah, c'est pareil. Il y en a qui jardinent, il y en a qui portent des fleurs. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'on est en hiver. Il y a tout un tas de choses, en effet, qui nous ramènent à l'essentiel. Et tout ce qui est... ces informations ne sont pas essentielles parce qu'on n'en a pas besoin pour vivre. Savoir si on va nous mettre telle loi ou je ne sais pas quoi, moi, je m'en tape complètement, ça ne me change pas ma vie. Je continue quoi qu'il arrive. Je regarde plus depuis très longtemps les informations. Et si quelqu'un ose mettre un truc là-dessus dans mon environnement, je m'en vais. Si je suis pas chez moi, je m'en vais. Ça peut arriver. Je vais faire un tour, je vais faire ci, je fais là, et puis c'est tout. Je ne veux pas écouter. Mais ça me paraît tellement évident pour les gens éveillés, ce que vous dites. Ça me paraît tellement, je n'arrive pas à comprendre, je réitère, qu'une personne éveillée, qu'une personne qui veut s'en sortir, soit encore capable de regarder ses mainstream, par exemple. Je n'arrive pas à comprendre ça.
Honnêtement, je pense qu'il y a encore quand même certaines personnes qui restent un peu concentrées sur les informations en se disant peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir quelque chose de plus positif ou je vais voir une avancée. Mais, et en fait, ils restent un peu dans la boucle, même si peut-être qu'ils ont un peu plus de recul ou de conscience sur ce qui se passe. Mais je pense qu'il y a quand même des personnes plus ou moins éveillées qui restent un peu... Voilà, concentrée dessus.
Je suis d'accord avec vous et vous l'avez dit, plus ou moins éveillé. Donc pour moi, ça n'est pas éveillé, si vous voyez la nuance. Je suis d'accord avec vous. Okay. Merci beaucoup, Mélanie.
Merci. Ben, merci à vous. Bon, on est vraiment très sérieux ce soir. Alors, c'est passionnant, mais on est peut-être trop sérieux. Et moi, j'avais parlé de rubrique People. Je me demandais si ce ne serait pas le bon moment pour passer à la rubrique People. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nadine. Je pense que pour l'instant, tu te méprends parce que une personne a posé la question sur le chat Révolution Vibratoire, donc toujours pareil, hein, qui court en parallèle, à propos des frères Bogdanov. As-tu entendu parler des frères Bogdanov? Et tu sais qu'il y en a un qui est mort récemment du Covid. Est-ce que tu les avais profilés?
Alors, les deux sont morts. Apparemment, ils sont morts à 6 jours d'écart. D'après ce que j'ai lu, hein, je peux me tromper, mais j'ai vu passer ça sur l'écart.
Je suis has-been, alors.
Non, t'inquiète. Hein, mais tu sais, en ce moment, ça bouge tellement vite qu'on est vite has-been. Alors, qui ne connaît pas dans notre génération les frères Bogdanov? Franchement, ils nous ont toujours impressionnés.
Temps X.
Petit génie. Bah oui, Temps X, voilà, exactement. Ils nous ont toujours... Enfin, moi, personnellement, je trouvais que c'était des gens très évolués, très éduqués. Je les ai croisés à un salon du livre que j'ai fait il y a pas mal de temps. Je les avais vus de loin comme ça. On s'est à peine dit bonjour, hein, parce qu'il y avait trop de monde. Mais des belles personnes. Alors, bon, il y a beaucoup de choses qui courent en ce moment là-dessus. Bon, ma casquette de profiler dirait que c'est quand même... Bon, je veux bien admettre que ce sont des jumeaux, mais qu'ils disparaissent à 6 jours d'écart, ça quand même, paraît quand même un peu bizarre. Alors, il y en a qui rebondissent dessus en disant qu'ils n'étaient pas picousés, que c'était un symbole pour dire qu'il fallait que tout le monde se picouse. Là, j'ai vu ça passer sur VK aujourd'hui, tout à l'heure, avant l'émission. Bon, chacun s'attire plus ou moins la couverture sur soi pour spéculer. Je dis simplement qu'il soit décédé à 6 jours d'écart. Alors, je crois qu'il y en a un qui serait décédé du Covid. Bon... Bah, c'est un peu comme Stéphane Bled, quoi. Il y a des trucs qui ne sont pas très clairs.
Tu penses vraiment qu'on peut rapprocher le cas de... C'est vrai qu'ils ont fait... Il y a une vidéo qui a circulé sur Internet, en fait. Bah, je crois qu'ils ont fait des émissions sur ces scientifiques qui ont été persécutés sous différents régimes, etc. Donc, voilà. En gros... Ils nous ont dit clairement récemment que ceux qui disent la vérité, eh ben, souvent, ils le payent de leur peau. Donc, certains considèrent que c'est parce qu'ils ont dit cette vérité qu'ils l'ont payé de leur peau. C'est ce que tu penses aussi?
Non, je ne pense pas. Je dis juste que c'est très étrange. Je ne peux pas comparer avec Stéphane Bled parce que ce ne sont pas du tout les mêmes profils. Ce n'est pas le même combat, ce n'est pas la même chose. Mais ils avaient l'air en très bonne santé. Ils étaient très vifs d'esprit encore, très lucides. Enfin, puis les 6 jours d'intervalle et tout ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup d'éliminations. Ben, ça me fait poser des questions. Mais je n'ai pas plus d'informations, mais ça me fait poser des questions. Et en effet, il disait certaines choses qui pouvaient déranger.
Oui, tout à fait. Bon, allez, on va parler de Jean-Michel Trogneux. Alors, est-ce que vous connaissez Jean-Michel Trogneux? Avez-vous entendu parler de ce hashtag qui a fait fureur sur les réseaux sociaux récemment? Tu connais Jean-Michel Trogneux, Nadine?
On n'a pas été présenté. Mais il paraît qu'on a un avis de recherche. Je sais pas, j'ai entendu une super journaliste qui a fait un super travail, qui a lancé un avis de recherche pour le retrouver, ce Jean-Michel Trogneux. Mais finalement, il n'est pas si loin que ça.
Alors, tu sais, pour nos auditeurs...
Alors, vas-y, je te laisse continuer. Je dirai après.
Non, mais voilà, peut-être que certains parmi nos auditeurs, comme on est passé à la rubrique People, se posent la question, mais qui est Jean-Michel Trogneux? Jean-Michel Trogneux, en fait, ce serait l'homme présumé qui se cache derrière Brigitte Macron et que Brigitte Macron serait un transgenre. Donc, alors, pour la petite anecdote, moi, j'ai quand même une petite anecdote à raconter parce que j'ai Trogneux, oui, comme dit Christelle. En fait, vous savez, sur Internet, c'est bizarre. YouTube, Google, etc., c'est assez étrange parce que des fois, vous voyez passer des trucs qui sont clairement diffamatoires, comme par exemple, effectivement, toutes ces assertions sur le fait que voilà, Brigitte Macron, c'est un transgenre, machin. Une vidéo qui fait des centaines de milliers de vues et puis que vous pouvez trouver, regarder sans aucune difficulté sur YouTube. Et puis moi, par moment, je fais des recherches en fait sur mes propres publications. sur mes Radio Pléiades, sur mes marathons spirituels. Puis là, je découvre en fait que bah, je suis censuré sur Google. Je découvre qu'on m'enlève des abonnés, on m'enlève des vues régulièrement sur YouTube, sur mes publications. Et je me dis, mais c'est quand même bizarre. Jean-Michel Trogneux, lui, on le laisse, alors que ça concerne, ça touche directement Brigitte Macron. Mais moi, mes petits trucs de rien du tout, on les censure. Il y a quelque chose qui m'échappe.
Bienvenue au club. C'est pareil alors, pour moi.
Alors, Brigitte Macron, est-ce que tu l'as profilée?
Alors, je vais te raconter moi aussi une petite histoire. Il y a à peu près, j'avais profilé tout le monde avant les présidentielles. J'avais même mis ça sur mon blog, mais de façon extrêmement soft pour éviter de me mettre encore en danger, si tu vois ce que je veux dire. Et ça avait vraiment buzzé, j'ai fait exploser mon blog. Et après les élections, j'ai tout enlevé. Donc, mes parents, on discute à un moment donné avec mes parents, et puis je ne sais plus, quelques personnes, comme ça en off, je dis pas mal de choses, tu vois, en off, mais en public, j'évite. Et j'avais dit, vous allez être surpris de savoir qui est Brigitte Macron. Et vous allez comprendre qui est vraiment ce couple et comment il est fait. Vous allez sûrement apprendre des choses, je l'espère en tout cas, parce que et puis sur d'autres comme Obama et compagnie, je dis, vous verrez, c'est pas les personnes qu'elles disent être. Et j'avais un peu plus détaillé sur mes parents en disant que bah, regarde bien le physique, regarde bien la posture, écoute la voix, tout ça, regarde tout ça, observe bien. Et quand Natacha Ray a sorti son excellent travail, qu'il faut encore plus peaufiner, parce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas encore découvertes. Alors, je précise que j'ai écouté sa première vidéo et j'essaie d'en écouter une autre. Je n'ai jamais pu l'écouter jusqu'au bout parce qu'elle est très difficile à écouter en interview. Elle fait du bon boulot, mais c'est lourd, quoi. C'est long, c'est redondant. C'est très difficile à écouter. Mais elle a fait un super boulot. Ma mère m'appelle et elle me dit « Mais t'avais raison ». Je dis « Alors, un moment, remets-moi en mémoire, là, parce que voilà, quoi ». Et donc, elle me reparle donc de Brigitte Macron et puis d'une autre affaire, qui était l'affaire Le Landais, sur lequel j'avais dit que c'était une mule et qu'il allait payer pour tout le monde. Et que s'il avait tué la petite, il n'en avait pas abusé et que c'était certainement un accident de la façon dont il l'a enterré. Et j'avais dit ça quelques jours après qu'il soit arrêté. Hein. Et donc, Carl Zero, notamment, pour qui j'ai fait une émission aussi, avait dit la même chose, je ne sais plus quand. Et elle me sort ça en même temps, ma mère. Elle me sort ça en même temps, les dents. En fait, on ne t'a pas cru, mais tu avais raison sur les deux. Et je la regarde, je dis ouais. Puis elle me dit, mais... alors, bah, excuse-nous, t'inquiète, j'ai l'habitude. Je t'inquiète, parce que j'ai l'habitude. Et maintenant, ça existe beaucoup moins. Maintenant, on m'écoute beaucoup plus. Mais il y a encore quelques années, on ne m'écoute pas tant que ça. Et j'ai dit beaucoup de choses, et certaines choses ont été publiques, d'autres pas. Et puis, tout s'est avéré derrière. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand j'avance quelque chose, je fais attention. Je fais attention déjà, si je peux le dire. Et ensuite, si j'ai suffisamment de billes ou d'éléments. Mais en fait, tout est sous les yeux. On l'avait dit dans une émission, je crois, avec toi, où il y a une dame qui demandait « Pourquoi vous ne nous dites pas tout et où est-ce qu'on peut trouver ?» Mais en fait, tout est sous les yeux. Il suffit de bien observer. Il suffit de bien regarder. Et ce n'est pas forcément du profilage, mais il y a beaucoup de choses qui déjà mettent en doute.
Oui, mais nous, on n'a pas ton discernement, tu le sais bien.
Oui, non, je sais, mais là, franchement, là, regarde, il y a des photos qui sont éloquentes, qui sont sorties depuis longtemps. On voit bien certaines choses. On voit bien quand même. On voit bien
et puis on voit bien qu'elle a utilisé, la photo de sa fille pour se représenter jeune. Ça semble assez éloquent aussi.
Voilà. Et puis, on ne sait pas où est ce premier mariage. Et puis, les enfants, bah, c'est comme Obama, ils sont loués en gros. Donc, bon, tout ça, c'est du pipoland. C'est du pipoland. Plus c'est gros, plus ça passe. Et quand moi, j'avais dit ça et je me suis permise de dire certaines choses que je ne dirais pas à l'antenne, je dis voilà qui on a mis à la tête de l'État. Les gens ils m'ont dit, mais t'es complètement folle, t'es marteau. Et ben aujourd'hui, c'est qui la folle? Donc, bon, voilà. Mais on n'écoute pas, tu vois, on préfère... c'est ça, le truc, c'est qu'on est tellement là séparés dans la façon d'être éduqués dans notre pays. Donc, on va faire confiance à tel, un tel, un tel. Et puis, eh bien, quelqu'un qu'on a diffamé dans la presse ou quelqu'un qu'on estime, c'est un métier, on ne sait pas trop quoi, on les écoute pas. Ces gens-là, alors qu'ils peuvent avoir une parole qui peut être intéressante. Peut-être pas juste, mais au moins intéressante. Tu vois, c'est ce côté, quand on dit que les sorcières, on ne brûle plus les sorcières sur les bûchers, mais si, il y a d'autres méthodes de brûler aujourd'hui, mais c'est différemment, c'est en utilisant les médias, c'est en critiquant, c'est en jetant le doute, en semant le doute dans les esprits des gens pour dire non, il ne faut pas écouter un tel, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et pourquoi les sciences du comportement ont autant de retard en France? Si tout le monde avait, tu le disais, s'il y avait plus de gens qui faisaient ce que je fais, on serait pas dans un tel bins aujourd'hui, hein, crois-moi. Hein. Ça, ce serait pas possible.
Ça serait donc pas le possible. Le scoop de ce soir de Radio Pléiade, Jean-Michel Trogneux, c'est pas du bidon. Vous entendez bien?
Ah
hein,
non. Pour moi, c'est pas du tout du bidon. D'ailleurs, il n'y a pas de désaveu. Il n'y a pas de dépôt de plainte, il n'y a pas de truc comme ça parce que bah, c'est vrai. Parce que c'est vrai, puis ça se voit. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres choses qui se voient, qui sont sous le nez. Il suffit d'observer, d'écouter, et pas de dire oh, c'est un beau gosse, je vais voter pour un tel, ou oh ouais, il parle bien, il dit ce que je ressens, alors ouais, je le crois. Mais non, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est on écoute, si ça parle ou ça parle pas, ok. Mais derrière, c'est de dire, mais attends, s'il mentait, si ce n'était pas crédible, qui c'est lui ou qui c'est elle, etc. Et là, déjà, vous êtes plus dans le discernement. Vous êtes moins dans d'attendre. Parce que surtout quand on est en guerre psychologique comme en ce moment, on n'attend qu'une seule chose, c'est que ça fasse écho en soi. Mais c'est là où on perd pied. Donc, c'est facile de manipuler en faisant ça. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est qu'il faut essayer de travailler sur soi et de se dire derrière, c'est pas parce que je reçois cette information qui me flatte ou qui me séduit ou qui répond en moi ou qui vibre en moi, etc., que c'est forcément tout bon. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense vraiment? Est-ce qu'elle me veut du bien? Est-ce que c'est celle qu'elle présente, etc. Surtout en politique. Surtout en politique. Et puis, de toute façon, on sait très bien que c'est dominions qui existent depuis longtemps. Donc, est-ce que c'est vraiment important de s'intéresser sur ce genre de sujet?
Alors, est-ce qu'une personne souhaiterait réagir par rapport à Jean-Michel Trogneux ou par rapport à notre rubrique People? D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure d'Obama, mais c'est vrai que voilà, concernant Michelle Obama, c'est pareil. Hein, ça, c'est Michelle Obama, un trans, ça, c'est pareil. C'est une information qui circulait beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça, je ne pense pas que ça ait véritablement éclaté au grand jour, mais c'était apparemment un secret de Polichinelle dans une certaine sphère.
Non, mais ça a éclaté beaucoup aux États-Unis. On voyait, c'est Michael, et c'est un nom, c'est deux noms. C'est Van quelque chose, je crois, si je me rappelle bien. Et que non, c'était bien connu, puisqu'ils étaient étudiants tous les deux, ensemble. Non. Et on connaît les parents des deux petites filles. Non, ça a beaucoup circulé aux États-Unis.
Voilà. C'est un peu comme si le fait d'avoir finalement à la tête d'un État, comme c'était le cas aux États-Unis, et comme ce serait donc le cas aujourd'hui en France, un transgenre, quelque part, c'est aussi, là c'est, vous entendez bien, hein, c'est ma vision spirituelle des choses, c'est aussi pour collecter de façon implicite notre consentement à tout cela, exact, finalement, et au transhumanisme, quelque part.
Exact, c'est exactement ce que je disais il y a 5 ans, quand je leur ai dit des choses que je réitère, je ne dirai pas en antenne. Quand je dis ces choses-là à ces gens-là, ils m'ont dit, mais attends, t'es folle, t'es dure. J'ai dit, mais dans ce cas-là, c'est que vous consentez. J'ai dit, moi, je ne consens pas. Et si je me base sur pas mal de choses, et notamment sur l'IA, parce que bon, il y a l'effet Covid, ok, il y a SARS-CoV-2, mais la deuxième étape qui est encore plus dangereuse, c'est le puçage. Et ça fait longtemps que je me bats contre l'IA, non pas contre l'IA en soi, parce qu'il y a des IA intelligentes qui sont en support, mais contre l'IA qui veut nous supplanter, nous diriger. C'est contre cette IA-là, intelligence artificielle pour ceux qui ne savent pas, que je me bats. Je l'ai mis dans mon livre qui est sorti, la première version en 2015, la deuxième, Net Profiling, comme préhender les cybercriminels, qui est sorti en deuxième version en 2018, où des gens vraiment initiés ont vraiment plébiscité ce livre comme une référence, la référence, et merci à eux. Mais les gens s'en foutent parce qu'il faut s'instruire. Il faut changer d'autres choses que le petit train-train habituel. Il faut parler d'autres choses qui parfois peut échapper. Même si on ne comprend pas et on ne connaît pas tout, c'est à la portée de tous de s'instruire, surtout de nos jours avec Internet. Et donc, non, ça va bien comme ça. J'ai une appli Intel, j'ai un machin comme ça, puis ça va bien comme ça. Et après, j'ai une puce dans la peau. Bah oui, mais si tu t'étais réveillé plus tôt, tu ne l'aurais pas ta puce dans la peau. Et les gens s'étonnent. Moi, je vois tout ce qui est lié à la cyber, tout ça. Si je fais des vidéos sur la cyber ou des sujets sur la cyber, ça fait des flops, alors que c'est un sujet qui est encore plus grave que la Covid. C'est encore plus grave. Mais non, c'est bon, ça nous dépasse, tu sais. Bon.
Là, il a fait des annonces, Macron a fait des annonces qui voulaient renforcer justement tout ce qui était police finalement. C'est-à-dire que ça le dérange pas de dénuder et de détruire l'hôpital. Par contre, avoir de plus en plus de policiers et de cyber-policiers, ça l'intéresse. Mais bon, c'est pourquoi évidemment.
Mais de toute façon, il a déjà fait un Fort Knox à l'Élysée et il ne peut que l'agrandir maintenant qu'il n'y est plus.
Alors, il y avait Denis qui avait levé la main. Je ne sais pas si c'est pour si c'était pour nous parler de Jean-Michel Trogneux. Sinon, nous avons Jacques également. On est dans la rubrique People.
Oui, Jean-Michel Trogneux, oui. Mais j'ai perdu le fil au fur et à mesure parce que je voulais prendre la parole sur autre chose. Mais je pense que c'est important de parler de tout ça. Vous m'entendez là?
Oui, on t'entend bien.
C'est important, mais il y a d'autres choses de plus importantes, comme a parlé tout à l'heure, mais j'ai perdu le fil après, mais...
Oui. Ah, on t'a perdu, Denis.
On a perdu, oui.
On a perdu Denis. Je crois que c'est déjà arrivé dans une autre émission. Bon, ben on va prendre Jacques. En attendant, on va prendre Jacques. Vas-y, Jacques, tu peux activer ton micro. Jacques Kervahu. Allô? Tu avais levé la main? Art vibratoire? Non? Bon, bah écoute. Alors, attends, est-ce qu'on va pouvoir récupérer Denis? Je ne sais pas. Ah, je crois qu'il a disparu, il s'est déconnecté. Bon, bah tant pis. Alors, si,
non,
ça
non,
y est,
non,
le revoilà.
C'est demande là, il est là.
Ouais. Le revoilà, vas-y Denis.
Je ne sais pas si je vais en parler de ça, parce que peut-être que ce n'est pas... comme on dit, on peut se faire prendre... facilement quand on parle de ce genre de choses, surtout quand ça touche à l'Élysée. Donc, c'est vrai que moi, je pense que là, il faudrait qu'on en parle plus avec des élections qui arrivent, justement, parce que ça ne bouge pas beaucoup. Et il faut savoir aussi que la gendarmerie, c'est une société au registre du commerce. Si beaucoup de gendarmeries, ce sont des sociétés au registre du commerce. Donc, les gens ne le savent peut-être pas, mais on est dirigé par des élites qui ne font que ce qu'ils veulent. Voilà.
Ok, merci
pour la précision.
Denis. Je ne sais pas si tu veux réagir à ça, Nadine, sinon on va prendre la question de Véro.
On va prendre la question de Véro, j'ai dit merci pour la précision.
Allez, Véro P, tu peux activer ton micro.
Oui, bonsoir. Ça fait deux fois que Nadine parle de Macron qui n'est plus à l'Élysée. Est-ce qu'elle peut en dire un peu plus?
Non, Véronique, non, je dis pas plus. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de vidéos, on ne voit pas vraiment un environnement élyséen. On n'a pas l'impression qu'il soit sur place. Je ne fais que analyser ce que je vois parfois en termes d'images. Les vidéos, je ne les écoute pas, hein, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je vois des images depuis 2 ans qui sont très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, bon, il est où? Et puis, parce que j'ai des amis parisiens qui ne voient pas grand-chose, qui habitent pas loin. C'est tout. Okay. Après, je ne peux pas en dire plus. Ou j'en dirai pas plus.
Ouais.
Voilà. À vous de faire vos propres analyses. C'est ce que je disais tout à l'heure. Observez, regardez. Il y a beaucoup de choses sous les yeux, sans forcément avoir toutes les réponses. Moi, non, j'ai pas forcément non plus toutes les réponses, mais je constate.
Très bien.
Très bien. Merci beaucoup, Nadine, pour cette réponse. Bah, je pense qu'on va s'approcher de la fin de notre émission. On a déjà fait plus de 2 heures. Et alors on peut prendre éventuellement une dernière question si vous le souhaitez. Et puis on va conclure. Alors, allez, c'est Picolus qui a levé la main le premier. Vas-y, tu peux activer ton micro.
Oui, mais, je suis de retour. Oui, donc moi je suis très, très intéressé par le film dont tu as parlé et des extraits que tu as passés ce soir. Et j'ai lu le bouquin plusieurs fois là, de Stanley Milgram. Et je voudrais rappeler la conclusion quand même de l'histoire, c'est que lorsque l'autorité médicale se divise, c'est à ce moment-là que celui qui est aux manettes pour envoyer de l'électricité aux patients, c'est à ce moment-là que lui se rebelle et quitte son siège et met fin à l'expérience. Donc on peut toujours penser qu'il y a un moment où surviendra une division au sein de l'autorité. Et peut-être peut-on la provoquer d'une façon ou d'une autre. Peut-être que Nadine peut nous laisser espérer quelque chose dans ce sens-là.
Ben c'est bien, ah, la boucle est bouclée.
C'est une très bonne chose qui peut même faire une conclusion, en effet. C'est clair que On a tendance à dire, quand les choses commencent à mal tourner, c'est que les rats quittent le navire. Et on a commencé à en voir quelques-uns quitter le navire. De ce que j'ai pu observer, encore une fois, de ma lorgnette qui n'est pas toujours rivée dessus, hein, voire même rarement. Et j'ai observé qu'il y avait des changements de comportement. Du reste, j'en avais annoncé en profilage dans Hold Up. J'avais dit, je me rappelle très bien, pour l'un d'entre eux, j'ai dit, oh, celui-là, il tiendra pas le coup longtemps, il finira par virer sa cutie parce que ça va pas lui plaire. C'est pas quelqu'un qui va rester toujours, qui va être mal à l'aise dans une situation, il va revenir à quelque chose où ça le met plus à l'aise. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pierre, si tu nous entends, tu t'en rappelleras, parce que je ne suis pas sûre qu'il soit passé dans Hold Up, ce passage-là. Donc c'est un peu ce qui se passe. Donc, quand les rats commencent à quitter le navire, ben ça va perdre pied. Mais pour le moment, ils ont plutôt intérêt à plus se consolider, parce que c'est la der des der. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre le paquet au maximum, qui peut durer 3 jours, comme ça peut durer 6 mois, ou comme ça peut durer 3 ans. Ça dépendra de nous. Et donc, ils vont mettre plus de choses, ils vont mettre plus de pression. Ça va être plus violent encore, ça va être plus et aussi peut-être même plus ridicule quand on voit. mais apparemment, il faut aller plus lever dans les cafés, c'est ça. J'ai un truc qui m'a beaucoup fait rire. Des images passées partout où tout le monde était à quatre pattes. J'ai dit, ça y est, ils ont encore sorti une bêtise, et j'ai cru comprendre que c'était ça.
Mais oui, vraiment. Tout à fait, oui.
C'est ça, voilà. Bon, bah, ridicule de chez ridicule. Donc là, je veux dire, si les gens n'ouvrent pas les yeux à ce niveau-là, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour eux. Donc, jusqu'à un moment donné où il n'y aura plus de cartouches. Mais parce que c'est nous qui ne leur donnerons plus de cartouches. Et c'est là que les rats vont. C'est l'expression, hein, les rats, je ne les traite pas de rats. Hein. C'est l'expression, les rats quittent le navire, qui fait que y aura de moins en moins de personnes qui vont suivre ça, ce qui commence déjà à se faire. Donc, en fait, il y en a qui cherchent des ralliements, et on voit des artistes subitement reprendre la parole où il faut se faire pousser. Tiens, comme par hasard, j'ai vu passer ça aussi. Et puis d'autres derrière qui commencent à virer leur cutie ou se désintéresser ou faire passer certains messages d'une manière ou d'une autre pour dire stop, on arrête, c'est pas bon. Comme j'ai vu, je crois, j'ai vu passer aussi un truc sur VK comme Ruquier apparemment aurait dit qu'il en avait marre, un truc comme ça. J'ai survolé le truc, hein, mais apparemment, il ferait pro aussi, apparemment, de temps à autre, aurait tendance à se poser des questions, des bonnes questions, pour une fois, pour un journaliste, c'est bien. C'est quand même la base un peu du journaliste, de poser des bonnes questions et se poser des bonnes questions. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui nous laissent penser que ça commence à se diviser. Et une fois qu'on arrive sur ce genre de comportement, ça veut dire qu'il y a en effet une autorité divisée, et c'est ce que je disais tout à l'heure, tant que l'autorité dit que c'est juste, etc., ça va. À partir du moment où l'autorité dit que ne dit plus rien ou qu'il n'y a plus d'autorité pour dire quoi que ce soit, c'est là qu'on commence à être libre. C'est là aussi que toutes les personnes qui jusqu'à présent suivaient ce système, suivaient et l'autorité, mais aussi tout cet endoctrinement qui existe depuis des années, ça va leur faire très mal, parce qu'ils n'auront plus du tout aucun repère. C'est là où ça va aussi être compliqué. Il va y avoir beaucoup de phases compliquées à venir. Il y a du boulot, hein. Je vous dis, il y a du boulot. Hein.
Oui, beaucoup de travail, beaucoup de guérison aussi. Beaucoup de guérison. Je pense qu'une fois qu'on aura arrêté tous ces escrocs qui sont à la tête des États et des grandes entreprises. Alors, Pavlina, je vais prendre une dernière question, intervention avec Pavlina. Si ce n'est pas une erreur, vous avez demandé la parole. Vous pouvez activer votre micro.
Oui, ça y est, c'est fait. Bonsoir. Moi, je trouvais qu'il y avait une dimension, pour en revenir un petit peu à cette expérience de 1000 grammes, en fait. On rentre dans une dimension qui est très actuellement collective, hein, une espèce d'hypnose collective et une pression collective, effectivement, sur les individus. Mais néanmoins, il y a aussi, je trouve, chez beaucoup de personnes, une dimension personnelle. Très égoïque, en fait, à ne pas admettre, à ne pas avoir cette capacité de vouloir admettre, on dirait qu'ils ont tort. Je pense que ça joue autour des processus d'identification qu'ils ont mis autour de vaccinés et non vaccinés. Il y a quand même beaucoup de personnes qui, effectivement, ne veulent pas admettre en pleine démonstration d'inefficacité des vaccins que peut-être ils ont eu tort.
Alors, bonsoir, Pavlina. Comme je le disais, même dans je crois, l'autre émission qu'on avait fait avec Hervé sur ce sujet-là, c'est que si vous avez des personnes qui sont ce que j'appelle lobotomisées, qui veulent se laisser manipuler, qui veulent être convaincues par, qui ont des convictions, des croyances même, qui les guident dans leur vie, que ce soit celle-ci ou d'autres, c'est très difficile de leur convaincre, de les convaincre d'autre chose. D'abord, il faut qu'ils aient l'esprit pour, parce qu'il y a des gens qui estiment qu'ils ont toujours raison, un ego qui est très important la plupart du temps, que c'est eux qui détiennent la juste parole et ainsi de suite. Enfin, il y a plein de critères et caractéristiques qui vont faire qu'on n'arrive pas à souvent même en placer une, mais simplement à leur faire entendre qu'il peut y avoir d'autres opinions et que personne ne détient la vérité finalement. Donc, que ce soit sur les vaccins ou sauce, ça ne changera pas. Et puis, il y a un système qui a fait en sorte qu'il faut croire au système. Il y a tout un processus de manipulation qui a été mis en place pour croire au système. Et ces gens-là n'ont pas eu jusqu'à présent peut-être de raison d'en douter, donc ils considèrent qu'il faut continuer, parce que tout est bien. Donc, pour eux, il ne faut pas toucher à cela. Donc, il est difficile de leur faire ouvrir les yeux, il est difficile qu'ils les ouvrent. Il faut qu'ils aient une sorte d'électrochoc, perdre quelqu'un à cause de la. Mais encore et encore, moi, j'ai un exemple. Tiens. Ma propre coiffeuse, et j'ai une cliente coiffeuse que j'ai récupérée par une autre cliente parce qu'elle a trouvé que ses cheveux étaient devenus très beaux depuis le coaching. C'est une mesure que j'ai découverte. C'est assez rigolo. Et ces deux coiffeuses-là me disent un truc important, c'est que tous ceux qui sont vaccinés, ils ont remarqué qu'elles perdaient beaucoup leurs cheveux. Mais déjà en passant le peigne ou la brosse dans les cheveux, et puis dans le bac, n'en parlons même pas. Et elles leur disent ce que vous avez remarqué, machin, bon, elles font leur boulot. Et elles posent la question, mais vous avez peut-être eu le vaccin, tout ça, enfin bref. Et de fil en aiguille, les autres, oui, bien sûr, donc peut-être faut voir, ça peut être lié à l'injection. Ah non, 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 pas du tout, on est en plein hiver. Moi, mon médecin me l'a dit, en plein hiver, c'est normal que je perde mes cheveux. Bien sûr, on s'est dit qu'au printemps, il va falloir trouver autre excuse. Hein. Mais voilà, donc là, il n'y a pas de discernement. Parce qu'elle croit au système, parce qu'on est en hiver, c'est normal de perdre les cheveux, alors qu'elle les perd vraiment. Elle m'a expliqué toutes les deux, c'est vraiment des poignées. Et à chaque fois, hein, donc c'est des gens qui peuvent aller tous les deux ou trois mois chez le coiffeur, ou tous les mois, j'en sais rien. Mais elles me disent, il faut voir ce qu'on laisse, et dans le peigne, et dans le bac. C'est ça, c'est systématique, me disent-elles. Donc, c'est pas, elles me disent, on peut avoir ça après une opération, des trucs comme ça, mais pas à ce point-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? S'ils ont décidé de croire que c'était à cause de l'hiver qu'elles perdaient leurs cheveux, il n'y a pas de discernement, on ne peut rien faire.
Alors, si je peux me permettre d'intervenir justement par rapport à ce point-là, moi, ce que je dis, c'est que c'est le narratif, justement, des médias, des autorités, le narratif extérieur qui prend le dessus par rapport à notre vision de la réalité. Et donc, les personnes, finalement, rentrent dans un déni de réalité. Mais c'est un phénomène qu'on observe beaucoup dans le domaine de la spiritualité. Je vais donner un exemple encore que j'ai vu passer sur le chat Révolution Vibratoire. Il y a des canaux qui nous disent « Oh, la cabale, ils sont en train de se rendre, ils sont rendus en Antarctique, ils sont en train de se rendre aux forces de la lumière, c'est terminé, tout va bien, hippie pourra, happy end. » Moi, je dis « Mais non, là, vous êtes dans un déni de réalité. » Désolé, moi j'observe pas ça du tout là. Quand j'écoute les médias, j'écoute Macron, la loi passe vaccinale. Non, ils sont pas en train de se rendre. Vous suivez un récit, vous suivez un narratif qui vous fait rentrer dans un déni de réalité. Donc surtout, restez bien ancré, restez bien accroché à la réalité pour éviter justement de ce genre de situation.
Exactement.
Ce qu'on peut observer quand même, bon, moi je reste quelqu'un de très optimiste, je pense que 2022 sera notre année, les choses avancent, j'en suis sûre, mais cependant c'est vrai qu'ils avancent à petits pas à chaque fois.
Dépend de qui
ils arrivent. Ça dépend à imposer la vaccination, là j'ai entendu que pour les 16 ans, il faudra le pass vaccinal à partir de 16 ans pour faire les activités en dehors de l'école, donc tout doucement ils continuent de grignoter. Mais tout doucement, en fait. Je pense
qu'on disait,
parce que contrairement, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, ils ont très peur du peuple, ça a toujours été, j'ai fait de l'histoire sociale, c'est une certitude, et ils ont très peur des mouvements sociaux, effectivement, dans la rue. Ça c'est vrai. Mais je trouve que quand même, tout doucement, ils avancent. Après, c'est vrai que de notre côté, ça avance aussi. Il y a beaucoup de gens qui se mobilisent de plus en plus. Il y a eu Pujadas, hein, qui retourne tout doucement sa veste. On a des gens comme Blachier aussi qui a créé une pétition en ligne. Et puis après, bon, on a des gens comme Idrissa Berkane, Louis Fouché, qui sont en première ligne et qui foncent, quoi. C'est, et M. Divisio, bien sûr.
Mais oui, bon, on verra ça aussi. Oui, on verra, enfin bon, là, je dirais rien. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que plus ils sentent qu'ils perdent, plus ils vont agir. Mais moi, j'aurais des enfants jeunes aujourd'hui, je les retire totalement de ce système, vite, quitte à quitter le pays, mais ils ne toucheront pas mes enfants. Et mes enfants sont grands.
C'est ce que je me suis dit, ça continue, il va falloir changer de vie, mais où aller, quoi.
Oui, bah, il y a des endroits, vous inquiétez pas, il y a des endroits où c'est plus intelligent. Et ça se sait, hein, on le voit sur la toile, là encore une fois, ça se sait. Mais très clairement, moi, j'ai des enfants qui sont grands maintenant, donc ils savent faire ce qu'il faut, heureusement. Mais ils seraient plus petits, je serais déjà partie, de toute façon, j'aurais déjà fait ce qu'il faut. Moi aussi pour eux, tout en continuant à combattre, mais je préfère les priver de sport, je préfère les priver de sortie, de tout ce qu'on veut, mais pas priver de leur vie. Il faut voir l'essentiel. Mais il y a très peu de gens qui sont capables de cela, parce que c'est... Alors, la pression des enfants qui peuvent faire aussi des caca nerveux, je vois pas mes copains, je vois pas mes copines, je vais pas au bar, je vais pas au McDo, etc., etc. Je comprends ça. Je comprends, mais on ne vit pas comme si on était en guerre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je reviens sur tout ce que je disais là. En fait, on reprend un peu la discussion que j'ai eue à plusieurs reprises, que j'ai expliqué tout à l'heure. Et Blaché est celui que j'avais profilé, où j'avais dit que lui, il serait mal à l'aise et qu'il lâcherait prise, qu'il reviendrait sur des choses plus saines, qu'il se rendra compte qu'il s'est fait manipuler. C'était de celui-ci dont je parlais. Mais attention, il y a des gens qui se battent, qui pensent, qui montrent qu'ils se battent, mais qui se battent peut-être pas pour la bonne cause. Il y a des personnes qui peuvent, et je dis ça pour tout le monde, on a observé certaines choses qui sont passées depuis, qui vont montrer certains visages, mais qui sont pas forcément des visages qui vont dans le sens, qui peuvent créer une matrice plus douce aussi. Comme certains chefs d'État. Trump, en fait partie. Il a toujours été dans une tendance de créer une matrice plus douce. C'est un bon profil. Il peut très bien signer certains documents sans peut-être trop se rendre compte de certaines choses parce qu'il en est capable. Parce qu'il a un ego très, très fort. Donc il suffit qu'il y en ait qui disent qu'il est plus beau, le plus fort, le meilleur, et il signe. Il en est tout à fait capable. Mais il est dans un esprit de créer une matrice plus douce. Donc on reste dans la matrice.
Ouais, c'est du miel, Nadine. Hein. Merci de nous dire tout ça. Alors malheureusement, il est 23h23. Je vais te demander en fait de faire une petite conclusion pour qu'on justement mette un terme à cette partie enregistrée. Il y aura un after. Hein, je ne sais pas si vous savez. Alors Nadine, je pense ne pourra pas rester, mais nous avons l'habitude après nos émissions enregistrées de faire un after pour ceux qui souhaitent rester et continuer à échanger sur ces sujets qui nous intéressent. Je sais pas si tu peux nous faire une petite conclusion, Nadine, mais en tout cas voilà, moi ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que par rapport justement à ce que tu disais, Pavlina, tout à l'heure, ils avancent, mais leur marge de manœuvre s'est réduite comme peau de chagrin. Et ça, il faut pas, c'est vrai qu'on... Bon, c'est peut-être ma façon de voir aussi le verre à moitié plein, plutôt que le voir à moitié vide, mais je vous assure, hein, quand on regarde la dimension de la guerre spirituelle qu'on a traversée à travers ces années, aujourd'hui, ils n'ont quasiment plus aucune marge de manœuvre. S'ils en sont à nous dire qu'on n'a plus le droit de boire une bière debout dans un bar, je peux vous dire que leur marge de manœuvre, elle est vraiment infime. Donc, ayez confiance en l'avenir. Ayez confiance en l'avenir, positionnez-vous fermement par rapport à votre souveraineté, refusez ce vaccin, refusez ces choses illégales, iniques, etc. Reconnectez avec votre part spirituelle et vous allez voir que le système va s'effondrer. Je pense même qu'il va s'effondrer cette année, c'est mon hypothèse. Mais en tout cas, voilà, nous avons vraiment, nous n'avons pas encore tout à fait gagné, mais nous avons presque gagné si nous continuons en fait notre engagement par rapport à toutes ces actions de lumière qu'on peut mener dans le cadre de notre communauté. Voilà, alors ce sera ma conclusion. Nadine, je te laisse quelques mots de conclusion.
Je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est très bien. C'est qu'en fait, je pense que ce sont des épreuves pour nous permettre d'être beaucoup plus forts, de surpasser, de dépasser ce que l'on pense impossible et qui est tout à fait possible, parce qu'on ne va jamais au bout du bout de ce qu'on est. Et quand on voit des personnes qui sont à la tête d'un État et qui perdent contrôle, c'est un excellent signe, qui va être très mauvais parce qu'on va encore morfler fort, ça c'est sûr, mais qui est un indicateur qui nous dit que là, s'ils ne peuvent plus garder leur contrôle, c'est vraiment il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on a touché là où il ne faut pas. Donc c'est bon. Qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux qu'eux. Beaucoup, beaucoup plus nombreux qu'eux. Et surtout beaucoup plus forts. Parce qu'on a réussi, si au bout de 2 ans on a réussi à tenir, on tiendra encore longtemps. Mais il faut tenir et il ne faut pas hésiter à se faire effondrer. C'est le moment où jamais de travailler sur soi. C'est le moment où jamais de se resserrer encore plus. C'est le moment où jamais de croire encore plus. Parce qu'on n'est pas arrivé là pour lâcher. On n'est pas arrivé là. Moi, je vous dis ça parce que j'ai plus de 2 ans, moi, de passif. Je suis encore en vie. Je suis encore là, peut-être plus pour longtemps. Ça, j'en sais rien. Ça dépendra de ce qu'ils voudront dire. Je ne me suiciderai pas, c'est clair. Donc, toutes ces choses-là, il faut vous les ancrer. Puis, il faut dire une chose, c'est que plus on se soutiendra tous les uns les autres, plus on se soutiendra vraiment dans notre combat commun qui est de libérer toute cette saloperie là qui nous inculque, qui nous donne depuis je ne sais combien de temps. Et si on a ce même objectif commun, quels que soient nos griefs, quelles que soient nos différences, quelles que soient notre fatigue, quelles que soient nos doutes, nos peurs, tout ce que l'on veut, mais il y en a un qui sera à 1%, l'autre qui sera à 100, c'est pas grave, qu'on se porte tous ensemble dans ce sens-là, on ira plus vite. On ira plus vite. Il faut vraiment croire en tout ça. Et il faut tenir. Et pensez bien une chose, c'est qu'on est en guerre. Il faut se comporter comme tel.
Nous sommes en guerre contre l'Empire. Jedi de toutes les origines stellaires, unissez-vous pour enfin mettre un terme à cette guerre galactique, à cette guerre multidimensionnelle. Ouais. Merci beaucoup Nadine, merci infiniment pour ta participation à cette émission ce soir.
Merci à tous, c'est moi. Toujours un plaisir. Merci. c'est toujours un plaisir, Hervé.
Merci à toi, merci à tous, merci à nos auditeurs. Et puis pour terminer cette petite émission, nous allons vous jouer cette magnifique chanson, Le cœur en épée, puisque c'est le cœur qui vaincra, comme vous le savez, et qui triomphera, et peut-être même cette année. Si notre cœur est assez fort et si notre intention est assez marquée. Merci à tous et puis on se retrouve dans l'after pour ceux qui le souhaitent dans 3 petites minutes à la fin de cette chanson. Merci beaucoup, merci Nadine et à la semaine prochaine pour un nouveau Radio Pléiade.
Merci à tous, au revoir à tous, merci.
Au revoir.
Ce n'est pas que chercher quand on lance un appel. Souvent la fin s'efface comme un souvenir diffus. Au milieu de l'espace, aux cordes si ténues. Comme il nous semble que rien ni personne s'émeut. Car cela reste à lui et qu'il n'y a plus d'avant. Rampe nos servitudes au soleil se levant. Alors on passe comme la dernière équipée. Notre courage étoile et le cœur. S'il faut que l'on se dise le temps qu'il nous fallut pour sortir des carcans et se revivre ensemble, il n'y a pas de décompte en dehors des témoins. Quand la force nous manque, on se tient par la main. Le chemin tout tracé suit la plume cristal, dépitant au sommet d'un vortex inspiré. Alors on passe comme la dernière équipée. Notre courage étoile et le cœur en épée. Notre courage étoile et le cœur en épée. Cœur. Quand dans nos idées lasses, puis à même cette source, l'ego se fond silence et l'origine se voile. Qu'il nous soit fait cadeau de cette liberté, entendre au creux des mots la lumière vérité. Nos destins sont saillants, bien qu'il nous ait largués. Il n'y a pas de victoire qui nous puisse combler. Alors on passe comme la dernière.